Bon, ben, il est 14h passé, on va commencer donc cette table ronde sur le thème du goût et terroir en Nouvelle-Aquitaine. Avant de commencer, je vais vous remercier d'avoir répondu présent à l'invitation de l'Espace Mendès France et également à la nôtre. Donc, vous allez assister à cette table ronde qui a été organisée par un partenariat entre l'Espace Mendès France de Poitiers, l'Institut du goût de Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, et également l'Université Bordeaux-Montaigne. Pourquoi l'Université Bordeaux-Montaigne? Car nous sommes quatre étudiants à animer cette table ronde issue de la licence professionnelle Valorisation, Animation et Médiation des Territoires Ruraux. Nous sommes formés afin de devenir, de travailler dans le développement du territoire rural par le biais d'organisations, de manifestations, de tables rondes, par exemple, pour valoriser et développer le territoire rural. Donc, je pense que nous sommes en plein dans la thématique du territoire rural avec le terroir et le goût. Donc, je vais remercier l'Espace Mendès France qui nous accueille dans ses locaux. Je vais donc demander à Céline Nolot et Monsieur Jacky Deneuil à venir prendre la parole pour présenter cet espace, ce centre. Donc, je vais vous inviter à prendre la parole.
Bonsoir, enfin non, bonjour. Merci à tous et à toutes d'être présents. L'Espace Mendès France, donc je vais vous faire une petite présentation rapide pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, l'Espace Mendès France est une association de loi 1901. Il a été créé il y a 30 ans. On va fêter donc en janvier 2019 nos 30 ans. Donc, ce centre a été créé par des chercheurs poitevins. Avec le soutien de la municipalité de l'époque sous Jacques Centreau. Donc, la volonté était de populariser les sciences, de mettre à portée de tous les résultats de la recherche et de présenter les informations sur les métiers, les laboratoires, les filières notamment qui sont proposées à l'Université de Poitiers, mais pas que, les métiers scientifiques. Et c'est un centre aussi pour amener le débat. Donc, différentes conférences sont proposées donc tout au long de l'année. Donc, vous avez les programmes à la sortie, les petits programmes roses. Donc, vous pouvez voir un peu la diversité en fait des thématiques qui sont proposées. Entre autres, nous avons également donc deux grosses expositions annuelles qui sont proposées. Donc là, actuellement, il y en a une qui vient de fermer. La prochaine va être inaugurée le 5 avril sur Tous humains. Et celle qui est en cours actuellement, c'est Milieux extrêmes. Vous avez l'affiche derrière. Donc, je vous invite à venir la visiter. Donc, l'ensemble de ces expositions sont toujours complétées par des conférences. Ça permet aussi au public d'aller plus loin, de trouver des informations complémentaires. Donc voilà. Et à côté de ça, nous avons différents cycles de conférences, notamment autour de l'histoire des sciences. Donc on a un pôle d'histoire des sciences au sein de l'Espace Mendès France, donc avec des journées d'études, des séminaires. Et nous avons également un partenariat assez exceptionnel avec le CHU de Poitiers, donc où nous organisons des conférences donc du pôle InfoSanté. Donc vous retrouvez tout cela dans le programme. L'Espace Mendès France, c'est également un pôle de création numérique, donc le lieu multiple. Donc vous avez aussi les petites plaquettes à la sortie, donc où il y a tout un travail autour du numérique, sur le handicap aussi également. Où on accueille des résidences d'artistes, ils organisent des concerts, des performances, etc. Et donc ça se passe généralement soit en salle Galilée ou au planétarium. Dans ce planétarium également, vous avez tout ce qui concerne l'astronomie. Donc on a un animateur en astronomie qui vous fait des séances, des ateliers scientifiques également. Pour compléter tout ça, nous avons également toute une série d'ateliers scientifiques pour les petits, pour les grands, donc qui sont proposés pendant les vacances scolaires, mais également les dimanches, également pour les anniversaires. Et puis, depuis de nombreuses années, maintenant, on accueille aussi l'école de l'ADN, donc où ils organisent aussi des ateliers et également ils vont aussi dans les structures à l'extérieur, dans les établissements scolaires, pour faire découvrir aussi toute cette partie autour de l'ADN. Maintenant, l'Espace Mendès France a souhaité aussi, depuis de nombreuses années, développer l'action territoriale. Donc, par le biais de différentes actions qui sont proposées. Vous les connaissez comme la Fête de la Science, c'est une manifestation nationale. Mais nous avons aussi développé des actions envers les bibliothèques et les médiathèques et les centres de documentation des établissements scolaires. L'idée était vraiment de toucher un autre public, le public de la lecture, la lecture publique. C'est des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à l'espace Mendès France, mais le but c'était vraiment d'aller à eux et de développer des actions dans leur médiathèque, sur leur territoire. Donc on a développé en fait la manifestation qui s'appelle La Science se livre, donc qui est organisée chaque année du mois de janvier au mois de juin, et donc autour d'un thème précis. Cette année c'était sur la transition énergétique. Et donc les structures ont la possibilité de choisir donc une liste de ressources, des expositions, des ateliers, des conférences, et ils l'organisent dans leur médiathèque. À côté de ça, on a souhaité aussi mettre en place une autre action qui est Images de science, science de l'image. Donc là, c'est la diffusion d'un documentaire scientifique suivi d'un débat avec soit le réalisateur du film ou soit avec un chercheur de la discipline. Donc là encore, également, cette manifestation est ouverte à toute structure, hein, établissement scolaire, bibliothèque, collectivité, association, et donc ils organisent, ou les petits cinémas locaux aussi également, et ils organisent sur leur territoire, ils choisissent un film, et le chercheur ou le réalisateur vient discuter et de débattre avec le public ou les jeunes collégiens, lycéens, dans leur structure. Maintenant, on a aussi, depuis 2014, avec la venue de Jackie Deniol au sein de l'espace Mendès France, développé toute la démarche créativité et territoire. Cette démarche, donc, il sera présentée par Jackie tout à l'heure, mais c'est aussi la poursuite du travail qui est fait aussi sur les territoires, l'accompagnement qu'on peut proposer aussi à des structures qui souhaitent mettre en place des projets, des collectivités qui souhaitent aussi qu'on les accompagne pour mettre en place un cycle de conférences, pour monter des projets, etc. Donc c'était dans cette logique-là de poursuivre ce travail-là de développement territorial qu'on a accueilli aussi la plateforme Créativité Territoire, que Jackie va nous présenter maintenant.
Merci Céline pour la transition. Très rapidement, hein, parce que je pense que l'intérêt c'est la table ronde. Moi je vous invite à découvrir surtout le programme. Il y a le programme de la journée et derrière vous avez le programme de l'année qui peut évoluer de toute façon encore en cours de route. Donc moi je pense que ce programme est placé sous deux ou trois maîtres mots: hybridation, sérendipité. Et puisqu'on est dans les goûts, je pense que vous connaissez la légende, je ne sais pas si c'est vrai du point de vue de l'histoire, je parle sous le contrôle de Mme Cocula, mais la tarte tatin, vous savez comment on l'a découvert d'une certaine façon, sont les sœurs tatin qui à un moment donné devaient faire une tarte aux pommes et qui, se précipitant pour sortir la tarte aux pommes du four, l'a renversée et plutôt que de la remettre à l'endroit, elle l'a gardée comme telle. Et c'est depuis ce temps que la tarte tatin a connu le succès qu'on connaît. Donc voilà, nous, c'est un peu cette démarche-là qu'on essaie d'avoir. Donc vous regardez notre agenda, vous verrez qu'il y a des gens qui font de la recherche sur ce thème parce qu'effectivement, les anglo-saxons avaient un peu monopolisé ce thème. Je fais référence aux travaux de Richard Florida, par exemple, et de Charles Landry. Et on ne voit pas pourquoi les Européens n'auraient pas une démarche sur cette question. Donc là, Yvette Lazéry, qui est à Aix-en-Provence, mène de concert depuis trois ans un travail de recherche. Et le prochain séminaire, c'est le 13 mars. Ensuite, on fait une conférence sur le mythe de l'Europe. Là, c'est notre souci pour le grec et le latin, puisqu'on a fait venir ici un chef d'entreprise qui met ses apprentis au contact du grec et du latin, qui développe la notion d'apprenti humaniste. Ensuite, on a des visites dans les entreprises, notamment une à Châtellerault, qui est un peu expérimentale et créative, mais elle est ouverte. Donc, si ça vous tente, la prochaine est le 19 mars, mais il y en aura d'autres. Il y en aura une autre en juin. Et avec cet entrepreneur, qu'on essaie ensuite de développer dans d'autres entreprises, puisqu'on a fait aussi des choses à Cognac, ou des choses aussi la prochaine, d'ailleurs, vous verrez, dans le programme. Ça sera la lingerie indiscrète à Chauvigny. Nos jeunes femmes qui ont repris à partir d'Aubad cette entreprise. Et donc là aussi, on fait une rencontre, puisqu'elles seraient demandeuses, d'une certaine façon, ces femmes qui ont repris cette entreprise, de faire un travail sur l'archéologie ou l'histoire de la lingerie. Donc ça nous intéresse. On invite aussi l'archéologue du coin, on verra bien. Il n'est peut-être jamais venu dans cette entreprise, mais c'est ça l'intérêt, c'est que, voilà, hybridation. Et enfin, le monde de la nuit. Alors tout n'est pas programmé. Donc si vous avez des idées, par exemple, sur le monde de la nuit, vous pensez qu'un intervenant un peu insolite pourrait avoir son mot à dire. Là, on a contacté, par exemple, un spéléologue de Deux-Sèvres, parce qu'on s'est dit qu'ils ont découvert une rivière souterraine. On ne peut pas faire mieux en matière de monde de la nuit. Mais on aura aussi l'école de Digi, qui est pas loin d'ici, de l'UCPA, qui est en Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine maintenant, hein, dans un mois de mai. Donc voilà, nature et tourisme, on fera venir quelqu'un du woofing. Je ne sais pas si vous connaissez le woofing, c'est finalement des vacances instructives dans les fermes. Agriculture et foncier, on n'a pas beaucoup d'idées sur la question, mais je pense qu'avec Olivier Passeland, on aura des pistes sérieuses, de même que sur nature et tourisme, on en parlait à l'instant. Voilà, et puis après, il y a les journées d'automne, ça sera les 7e, parce qu'on a commencé il y a déjà 7 ans maintenant à lancer ça. Et là, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert au monde francophone, européen. Et banque, fondation, philanthropie, parce que c'est pareil, on n'a pas tous les intervenants, mais on pense au bitcoin, on pense aux monnaies cryptées, etc., à toutes ces questions qui aujourd'hui agitent notre monde. Donc vous voyez, créativité et territoire, c'est au fond, c'est ça, c'est poursuivre un certain nombre de réflexions sur le monde d'aujourd'hui et ne pas oublier l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je salue parmi nous Olivia Gauthier, on se connaît depuis quelques années maintenant. On s'était rencontrés autour d'une rencontre du slow tourisme, puis depuis les choses ont continué. Il y a d'ailleurs eu, tu fais partie du réseau des entrepreneurs du futur, ce qui est tout à fait un réseau tout à fait intéressant, même titre que le réseau du CJD. Voilà, je ne vais pas en dire plus longtemps parce que ça serait fastidieux. Puis on n'est pas là pour vous abreuver de conseils, donc bonne chance pour la table ronde.
Merci beaucoup Jackie, merci Céline. Donc je vais maintenant laisser la parole à notre partenaire, Madame Anne-Marie Cocula, qui est la présidente de l'Institut du Goût de Nouvelle-Aquitaine, hein, qui va venir nous présenter cette jeune structure qui a apparemment un bel avenir.
On l'espère toutes et tous. Donc bonjour. Bon, simplement, moi je viens en qualité de présidente, mais surtout avec mes collègues, et nous travaillons au sein de cet institut, Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine. Alors ça donne un peu, vous voyez, la marque que vous voyez ici, ça ressemble un peu à un camembert, mais bon, c'est bon, on est contents, on est fiers de nous. Et simplement, pour vous dire ceci, c'est qu'en fait nous sommes une association que nous nous sommes rendus compte au moment où se créait la Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis ancienne élue de l'ancienne Aquitaine. Mais avant, je suis une universitaire. J'ai longtemps fait des recherches. Je continue, j'essaie en tout cas de faire des recherches en histoire. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'alimentation. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que nous avions beaucoup de chance d'avoir cette Nouvelle-Aquitaine parce que nous étions la plus belle région de France, d'abord, d'emblée. Mais surtout que nous avions un capital en agriculture et en patrimoine, je dirais, culturel et culturel, quelque chose de formidable et que nous devions ensemble le mettre en valeur. Et pour le mettre en valeur, cela veut dire en quelque sorte non seulement s'intéresser au patrimoine, mais s'intéresser, je dirais, à tout ce qui nous est resté sous la forme de recettes, sous cette transmission finalement que l'on connaît bien. Et notre souci à l'IGNA, c'est de se dire que nous ne sommes que des passagers et que nous devons justement être, grâce à vous, des ambassadeurs de ce qui peut se transmettre et de ce qui doit se transmettre en termes de vécu et de sensations. Or, il me semble que le goût a joué un rôle performant très important. Donc, comment faire d'abord pour se saisir de cela ? On a beaucoup travaillé sur cette thématique. Je ne l'aborde pas aujourd'hui parce que ça serait vraiment un trop long discours. Et on a aussi beaucoup travaillé sur le rôle que pouvait avoir notre association au sein d'un vaste dispositif qui est celui des enseignements du second degré. Puisque je vous rappelle qu'en termes de compétences, à l'heure actuelle, il revient aux communes ou aux communautés de communes d'avoir la gestion des écoles primaires. Il revient aux conseils de département, anciens conseils généraux, d'avoir un rôle pour la restauration, les aménagements des collèges. Et la région a cette compétence au niveau des enseignements du second degré, les lycées. Alors, de mon temps, il y en avait 153. Maintenant, ils sont multipliés par deux en termes de nombre. Donc, de mon temps, c'était 18 millions de repas par an. Maintenant, c'est plus que le double. Donc, c'est à partir de ce moment-là de se dire comment, puisque l'aide, nous, la Nouvelle-Aquitaine, nous est acquise, c'est une aide, j'allais dire, financière, matérielle, et c'est aussi le souci de transmettre à ces jeunes générations, de la maternelle à l'université, et je salue ici les étudiants présents, de se dire comment fait-on pour accueillir, bien évidemment, des goûts nouveaux en termes d'accueil. Comment fait-on pour les transmettre? Comment fait-on d'abord pour éduquer? Donc, notre rôle, il est là. C'est un rôle humble, simplement, de vous écouter. Et par rapport à ce qui a été dit, et j'en profite vraiment pour remercier toutes celles et ceux qui œuvrent au sein de l'espace Mendès France, c'est de dire comment peut-on faire pour rassembler toutes les sciences que nous représentons, des sciences humaines aux sciences inhumaines, des sciences dures aux sciences molles, à toutes les appellations que vous pouvez trouver à l'heure actuelle et qui vous traduisent notre diversité. Comment peut-on faire pour que tous ensemble, toutes ensemble, nous puissions concourir à faire que les jeunes qui arrivent désormais aient non seulement un goût d'apprendre, mais un goût de goûter. Voilà. Nous en sommes là et je pense que c'est à vous, public, à toutes celles et ceux qui vont intervenir, à ceux qui vont nous écouter, à ceux qui vont entendre parler de nous dire ce que vous en pensez, parce qu'il me semble que c'est très important et que, alors qu'on s'interroge énormément à l'heure actuelle pour des raisons faciles à comprendre sur la qualité de ce que nous mangeons, de ce que la qualité de ce que nous allons offrir aux générations qui viennent, depuis le lait jusqu'à comment fait-on. Voilà. Donc je reste volontairement sur une interrogation, parce que je pense que ce sont ces interrogations-là qui doivent être l'élément moteur de notre réflexion et de notre existence. Donc merci à toutes celles et ceux qui sont présents à la table ronde, que nous aurons tous plaisir à écouter. Voilà.
Bien, merci beaucoup pour cette superbe présentation de l'IGNA. Donc je vais remercier à mon tour bien, tous les intervenants qui ont répondu présents, qui viendront apporter leur expérience et leur point de vue sur cette problématique. D'ailleurs, ce sera le thème de la première partie de cette table ronde qui sera menée par ma camarade Lisa. Dans un second temps, nous aurons un petit atelier du goût qui vous sera proposé pour 10 volontaires parmi vous. Ensuite, qui sera mené par Delphine et moi-même. Et ensuite, Jordan finira cette table ronde avec une partie questions-débats, avec 3 questions qui sont un peu les fers de lance de la problématique. Donc, je vais vous demander, bien sûr, d'être, si possible, actif durant cette table ronde, puisque nous sommes ici pour discuter et participer à une analyse sur nos questions, débats. Donc, n'hésitez pas à vouloir prendre la parole. Vous levez la main, je vous porterai le micro. Avant de vous souhaiter un agréable moment parmi nous, je vous demanderai, pour ceux qui auraient oublié, d'éteindre ou de mettre en silencieux leur téléphone portable afin de ne pas perturber le bon déroulement de l'après-midi. Je vous remercie. Bon après-midi. Je vous laisse en compagnie de Lisa.
Merci, Lucien. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être venus parmi nous cet après-midi. Donc, je vais me présenter. Je suis Lisa Thomassin, étudiante en licence professionnelle, valorisation, animation et médiation des territoires ruraux. Et nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous cet après-midi Monsieur France Génaud, vice-président de l'ANA et coordinateur du cluster RESCAP de recherche et développement de la filière caprine de Nouvelle-Aquitaine et Vendée. Monsieur Dominique Baricot, ancien producteur et éleveur et anciennement président du réseau Bienvenue à la ferme à l'échelle départementale et régionale. Madame Olivia Gauthier, donc responsable de l'hôtel-restaurant Les Orangeries à Lussac des Châteaux. Monsieur Laurent Jean-Claude, initiateur du projet So Far So Good, qui est un bar à jus. Et enfin, Monsieur Jean-Luc Montembeau, directeur de l'agence de voyage Casting Cognac Tasting Tour. Donc, merci à tous d'être présents cet après-midi. Avant de vous demander de vous présenter en 15 minutes, je vais commencer par me présenter. Alors, j'ai toujours aimé cuisiner, je viens de Bordeaux et en tant que jeune consommatrice, j'essaie de consommer des produits locaux, bio. Et la thématique de cet après-midi m'intéresse fortement parce qu'elle va pouvoir développer ma réflexion sur qu'est-ce que je consomme et pourquoi, et d'où ça vient, et qu'est-ce qui est possible dans cette grande région qui est la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Pourriez-vous, chacun votre tour, vous présenter en 15 minutes votre activité, comment elle s'insère dans le territoire. Et si vous le voulez bien, messieurs, nous allons laisser l'honneur aux dames. Madame Olivia Gauthier, voulez-vous commencer?
Écoutez, avec plaisir. Donc, j'ai un hôtel-restaurant qui est né il y a presque une vingtaine d'années, avec au départ une partie uniquement hébergement, et puis très vite la restauration est apparue comme une évidence souhaitable et aussi pour un supplément d'âme qu'on cherchait. En fait, on était triste de voir tout le monde partir le soir et revenir. Enfin, il nous manquait quelque chose. Donc, ça a démarré par une sorte de table d'hôte et puis ça a pris de l'essor. Et en fait, il y a eu un vrai tournant en même temps qu'on s'est engagé dans la démarche d'écolabellisation. En 2005-2006, on a été le premier établissement écolabellisé en France. Donc, ça portait sur l'hôtellerie. Mais dans la foulée de ça, on a vraiment pris conscience des enjeux, des problématiques aussi, et surtout des opportunités. Et en particulier, je le raconte parce que ça va vous parler à la faveur d'une semaine de la mobilité. On s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, nous, on était tous en horaire décalé, donc l'idée de covoiturage n'était pas très facile. Et on s'est dit, on va faire un truc fou, on va faire un menu éco-frette, donc dans un domaine de 60 km aux alentours. Et donc ça, c'était en septembre 2006. Et donc on a commencé à appeler tous les fournisseurs de proximité pour composer un menu. Et au bout d'une semaine, ça durait une semaine, on s'est dit, mais c'est trop génial, on ne peut pas abandonner ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à être ce qu'on appelle maintenant locavore, c'est-à-dire vraiment relocaliser nos achats et travailler avec des fournisseurs de proximité. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement parce qu'on découvre, il y a toute une génération qui change. Là, on en a parlé d'ailleurs beaucoup dans le cadre du Salon de l'agriculture. On est, je crois, sur une terre dans 68 arts qui ont réussi. Donc, nous, c'est vraiment la découverte qu'on a faite. C'est-à-dire que rapidement aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait la dimension du bio. Donc, on s'est intéressé parce qu'on était un peu apprenant, quoi. Enfin, on n'est pas arrivé avec des convictions. Ça a vraiment été un parcours, un chemin. Et donc avec évidemment la volonté de privilégier ceux qui faisaient propre en fait, en respectant leur terre et leur terroir. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé très rapidement sur des menus très courts hein, en fait, à travailler d'autres morceaux. Si par exemple, je me souviendrai toujours de ma petite productrice de porc bio qui était enceinte et qui après deux commandes m'a dit « mais on va pas plus pouvoir travailler ensemble » alors que j'avais découverte à 20 km de chez nous. Et elle me dit, mais non, mais il y a deux filets mignons par porc. Si vous ne commandez que du filet mignon, ce n'est pas possible, quoi. Donc, on apprend aussi quelles sont... et c'est des contraintes créatives, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure aussi, ça amène à penser différemment, à être agile en fonction de ce qui est disponible. Ça apprend à comprendre que le printemps, finalement, c'est la saison la plus compliquée parce qu'il n'y a rien dans les jardins, ou pas beaucoup. Donc voilà, et le contact humain avec les producteurs est d'une richesse inouïe. Enfin, parce que aussi, on s'est rendu compte avec le temps qu'on avait cette chance-là, et je partage complètement ce que disait madame, on a un écosystème exceptionnel. C'est notre grande force, c'est aussi notre difficulté parce qu'on est au milieu de la pampa, entre guillemets, au milieu d'un peu nulle part. Et aujourd'hui, très récemment, j'ai lancé l'idée d'un incubateur de gastronomie durable parce qu'on avait de la difficulté à recruter et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on devienne une entreprise apprenante et que notre force, c'était cette proximité avec les producteurs, leur savoir-faire et pouvoir donner à un chef, et il y en a de plus en plus qui sont dans des écoles urbaines, la possibilité de voir concrètement comment on fait un pain avec de la... Parce qu'on a un paysan boulanger qui est à côté, aller à la criée, pouvoir aller sur un élevage de truites, par exemple, une pisciculture. Parce qu'au fur et à mesure aussi, on s'est rendu compte que ce n'était pas un hasard si c'était bon. Et que petit à petit, on a commencé à poser plein de questions aussi sous la dynamique des associations dont on fait partie. En particulier, on fait partie d'une association, alors évidemment, les associations locales, type Table Gourmande, on est maître restaurateur, on transforme tout sur place. Et on fait partie aussi d'une association anglaise, et c'est très riche, enfin internationale, qui s'appelle Sustainable Restaurant Association. Et le choc des cultures est absolument passionnant, parce qu'ils sont beaucoup plus sur le bien-être animal, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles ils sont un peu différents. Et surtout, ils sont très pragmatiques, et ils nous demandent de justifier ce qu'on fait. Quelle est notre politique d'achat? Est-ce que nos producteurs la connaissent? Comment on la partage avec nos équipes? Comment on la partage avec nos clients? Pourtant, pourcentage de nos équipes sont capables de l'expliquer. Enfin, des choses comme ça, très, très concrètes. Donc, ça nous oblige aussi à nous renseigner auprès des producteurs. Et pour donner un exemple, là, je me suis un peu ridiculisée, mais finalement, c'était intéressant avec notre producteur de pigeons et de cailles, à qui je disais, est-ce que vos cailles sont en élevage extensif? Puisque l'extensif, c'est quand même un des enjeux de l'élevage. Et il me disait, mais vous savez, l'écaille, c'est quand même un oiseau migrateur. Si on dit ça caille, c'est que en dessous de 18 degrés, ça s'envole, quoi. Et il m'a dit, en revanche, j'ai testé l'été dernier, entre juin et septembre, un élevage extensif. C'était extraordinaire en résultat, en termes de texture et de goût. Le problème, c'est que je n'avais pas de clients. Et donc, c'est le genre de choses qu'on adore, nous, parce que derrière, ça nous incite à monter un groupement avec des confrères où on va sécuriser l'achat et à proposer un produit qui est vraiment spécial. Donc, on est tout le temps dans cette démarche-là de recherche. Et là, très récemment, dans les choses qui nous portent un petit peu, on est vraiment aussi sur l'ultra-fraîcheur. C'est-à-dire que dans la discussion avec notre paysan boulanger, on s'est rendu compte que ça peut paraître évident, mais on n'était pas conscient que la farine est un produit frais. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si la farine est meulée la veille du pain. Et on s'est dit que dans notre économa, il y avait trop de produits qui traînaient, quoi. Et l'idée de déconcevoir l'économa pour qu'on ait juste ce qu'il faut, mais vraiment en ultra fraîcheur, c'est intéressant. Et économiquement aussi, parce que ça coûte cher en fait, de stocker pour rien. Et on est aussi très, très branché sur la fermentation. Parce que c'est fascinant. Et là, ça rejoint complètement la discussion du jour. C'est-à-dire que l'idée, c'est de donner à goûter le terroir. Et cette dimension de biotope et de goût du lieu est absolument fascinante. C'est-à-dire que, pour encore l'exemple du boulanger, mais il est très, très intéressant, un boulanger qui échange son levain avec son boulanger voisin, pendant 3 jours, le pain du voisin va avoir le même goût que celui qui a donné le levain, et puis petit à petit, il va retrouver son goût à lui. Et c'est pareil pour les fromages, et c'est pareil pour tous les produits fermentés, sont ceux qui ont du goût, le vin, le pain... le miel si on parle d'hydromel, enfin voilà, les yaourts. Donc là on est vraiment en train de travailler sur la fermentation des légumes, sur la fermentation des légumes secs, sur évidemment tout ce qui est laitier. On a récupéré ce qui est magique des graines de kéfir, kéfir de lait, kéfir de fruits. Donc voilà, on est absolument fascinés par ça et c'est vraiment d'une richesse incroyable. Et puis le dernier point, parce que je veux pas... C'est la dimension aussi d'échange. Enfin, il y a une pédagogie qui est vraiment importante. On se sent très responsable. Et puis plus ça va, plus on se rend compte aussi que finalement, la dimension artisanale, au-delà de faire travailler le terroir, elle a aussi du sens en termes de valeur ajoutée, gustative, santé. Enfin, il n'y a que des positifs. Le tout, c'est d'arriver à trouver un modèle économique qui soit durable pour tout le monde et qui soit la logistique aussi est importante. Et ça permet aussi de comprendre comment sont faits les autres produits. Enfin, il y a beaucoup de connaissances qui circulent pas. On se pose plein de questions sur la viande aussi. On sent qu'il faut qu'on aille vers une alimentation plus végétale. Donc comment on donne du relief à une assiette végétale? Enfin, toutes ces questions-là sont ouvertes. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que le grand public a vraiment pris conscience de plein de choses et est très curieux. Donc on partage beaucoup d'informations. On a la chance d'être aussi un point de rencontre entre le grand public et finalement les producteurs. Et souvent, quand il y a des réunions en bio, c'est un peu dans un entre-soi qui est compliqué de casser et que finalement, nous, on peut être une interface qui fonctionne. Donc voilà, en tout cas, si vous avez d'autres questions après, avec plaisir.
Oui, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de renseignements ou d'informations complémentaires. Cette présentation était vraiment très intéressante. Merci beaucoup. On va peut-être... passer à la suite. Monsieur Dominique Baricot, voulez-vous vous présenter?
Oui, monsieur Baricot. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, un peu au passé, hein, j'étais éleveur jusqu'en 2014. Donc, on était producteur de volailles fermières, de porcs fermiers. La grosse partie, c'était tout élevé sur l'exploitation à partir de poussins. C'est-à-dire qu'on achetait tous les poussins un jour. On fabriquait toute notre alimentation avec les produits de l'exploitation depuis le premier jour. Au départ, c'était un peu compliqué parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas capable de le faire parce qu'il n'y a que les industriels qui savent faire l'aliment. Et puis une journée, vous dites, ben, pourquoi pas moi? Et puis on est parti comme ça. Donc production non OGM parce que ça, j'y tenais. Donc à l'époque, pour remplacer le soja, on avait du lupin. C'est-à-dire qu'on est dans une région où on peut produire du lupin sans problème. On abattait, on avait notre abattoir, tout notre conditionnement sur l'exploitation. Les volailles étaient vendues pour 40% grande distribution. C'est-à-dire j'avais un contrat avec un supermarché où j'étais très content de la démarche. Aujourd'hui, on entend que on n'entend pas toujours ça. Moi, j'ai jamais eu à me plaindre d'eux. Il faut être ferme. On était sur un produit non concurrentiel, c'est-à-dire que bon, les producteurs de volailles se battent pas pour aller vendre dans les supermarchés, ou enfin à l'époque ça se battait pas. C'était même plutôt le contraire. Et bien sûr, comme tous les supermarchés, hein, ils voulaient toujours des réductions tout le temps. Moi, ça a toujours été non. Hein, je lui ai dit que si vraiment ils voulaient des ristournes, que moi j'allais rester chez moi. C'est-à-dire que je voulais pas me déplacer pour rien gagner. Et puis il a fini par comprendre. Et puis bon, on a travaillé pendant 10 ans ensemble. Avec une progression plus rapide que je pensais. C'est-à-dire qu'au départ, on travaillait 20 volailles semaine, 30 volailles. Et pratiquement 6 mois après, on était rendu à 40, 50, 60, 100. Alors ça a demandé toute une logistique parce que, bon, abattre 200 ou 300 volailles semaine avec des volailles qui ont 10, 12, 15 semaines minimum, ça veut dire qu'il faut sur l'exploitation un stock de volailles important, toujours pas perdre le fil. Et dans ces métiers-là, le problème, c'est que vous êtes producteur, vous êtes transformateur et vous êtes commercial. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être mauvais sur un ou l'autre, il faut être bon partout, parce que vous ne pouvez pas décevoir le client, surtout le supermarché, entre plus très difficile, et le client, parce que tout le reste, les 60%, étaient vendus directement à la ferme, sur place. C'est-à-dire que les gens se déplaçaient sur l'exploitation tous les vendredis. Les gens ne travaillaient que sur commande. Ce qui veut dire que le vendredi soir, les frigos étaient vides par rapport à des gens qui font des marchés où vous ne savez jamais ce que vous allez vendre. Nous, on savait que le vendredi soir, le mardi soir, on avait nos commandes et on savait que le vendredi soir, nos frigos seraient vides. Donc ça permettait de ne pas avoir de pertes. Après, on a décidé un peu plus tard, à la demande de nos clients, de faire du porc, parce que tout le monde nous disait, on ne trouve pas de bon porc. Alors je leur ai dit, vous êtes bien gentils, mais vous voulez tout, mais c'est toujours les mêmes qui font le travail. Donc j'ai fini par céder, on a fait du porc en plein air, intégral. On achetait les porcelets à 8 kg et on faisait notre alimentation pareil. Alors après, s'est posé le problème dans la région, dans la Vienne, c'était de l'abattage. Dès que vous sortez des standards poids de carcasse 100 kg, tous les abatteurs vous regardent avec des yeux en vous disant qu'est-ce qu'on va faire de vos bêtes. Parce que moi, je faisais du porc de 140, 180 kg de carcasse, pratiquement 9 mois à 1 an d'élevage. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes pour trouver un abattoir. Et j'ai trouvé qu'un abattoir industriel qui me passait mes porcs sur la chaîne aux bovins. Parce que quand il a vu les porcs, il m'a dit, moi, ma chaîne à porcs, vous allez me la casser. Parce que les porcs ne sont pas adaptés à la machine. Donc quelquefois, quand on nous dit il faut faire des productions locales, il faut faire de la vente directe, pour des animaux comme ça, et aujourd'hui dans la Vienne, je ne sais même pas si on est capable de trouver un abattoir de porc, non. Je pense qu'il faut aller en Touraine. Alors aujourd'hui, quand il faut faire 80, 100 km pour emmener des porcs à l'abattoir, c'est pas toujours simple, hein. Il faut les emmener, il faut les récupérer. Donc à l'époque, bon, on avait trouvé cet abattoir dans les Deux-Sèvres, c'était souvent au forceps, quand ils me voyaient arriver, ils commençaient à lever les bras au ciel. Mais bon, on avait un partenariat, donc à partir du moment où je payais ma taxe d'abattage. Mais aujourd'hui, ça paraît compliqué pour faire des productions comme ça, quoi. Alors au départ, les porcs, les gens étaient très surpris parce que la viande était pratiquement rouge comme du bœuf. Et souvent, de fois, on m'a dit, mais c'est pas du porc. Ben, je dis, si, c'est du porc. Parce que le porc, aujourd'hui, il n'est pas rouge, quoi. Il est plutôt un peu blanc, hein, ce qui est logique. Mais bon, après, les clients, ben, on a fait goûter, hein. La dame tout à l'heure, hein, souvent de fois les gens voulaient du filet mignon, comme vous dites, mais on tuait un porc par semaine, on ne pouvait pas avoir 10 filets mignons, ce n'était pas possible. Mais on a fini par éduquer les gens, et puis les gens à la fin étaient vraiment. On pouvait même, on a eu une période où on pouvait pratiquement abattre 2 ou 3 porcs semaine. Et moi, j'ai jamais voulu parce que bon, ça représentait une somme de travail importante, surtout en plein air, parce que l'été c'est appréciable, mais en hiver, bon, les porcs ils sont en plein air. Hein, c'est. Ce n'est pas toujours des conditions de travail idéales. Bon, en volaille, c'était pareil, hein, parce que bon, toutes les volailles étaient dehors. Après, en 2010, on a décidé de. Les gens nous disaient, oui, mais il faut venir à la ferme, vous ne vous rendez pas compte, faire 15 km. Alors, moi, je leur disais souvent, quand le dimanche, vous ne savez pas quoi faire, ou le samedi, vous allez souvent voir des meubles en kit à 100 ou 200 km. Ça ne vous pose pas de problème. Alors, on a décidé d'ouvrir une petite boutique, hein, de produits fermiers, bon, à 15 km de chez nous, à Vouillé. Alors au départ, ça devait être une boutique collective, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme à l'armée. Quand on veut des volontaires, c'est pas les gens qui avancent, c'est tout le monde qui recule. Donc personne n'était décidé, donc on est parti, on a ouvert la petite boutique et on a pris les produits aux gens qui nous plaisaient. Voilà. Quand vous êtes associé, c'est pas toujours évident, alors que là, donc aujourd'hui, on a toute une gamme, plus notre gamme, parce qu'on a arrêté, on a tout arrêté en 2014 pour raison de santé. Donc aujourd'hui, on a toujours ce magasin qui fait des produits fermiers. C'est mon épouse qui s'en occupe et qui est très, très difficile sur les producteurs, sur la qualité des produits. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Voulez-vous dire un petit mot par rapport au réseau de Bienvenue à la
oui,
Ferme
alors, oui, alors longtemps, oui, bien sûr, j'étais responsable Bienvenue à la Ferme, tout en assumant mes tâches familiales et professionnelles. C'était pas toujours facile, mais bon, il y avait de la lumière dans les bâtiments, donc ça permettait de travailler le soir. Quand on revenait de réunion, quelqu'un ici qui pourra pas le démentir, c'était pas toujours facile, mais bon, le problème aujourd'hui de toutes ces associations, c'est qu'il faut des gens qui s'en occupent. Tout le monde veut que ça tourne, mais personne ne veut y passer de temps. Alors donc, bon, on a fait ce qu'on avait à faire à l'époque. Hein. Au niveau de la Vienne, on avait essayé d'instituer avec la ville de Poitiers un marché Blossac pour amener la campagne à la ville, qui marchait très bien hein, tous les ans. Le dernier samedi de juillet, pour mémoire, juste avant les remises de résultats de bac, en principe, on essayait de faire ça pour éviter que les gens soient partis. Et puis après, bon, on a fait, après, là, bon, au niveau de la chambre d'agriculture, puis bienvenue à la ferme à l'époque, on a fait les marchés de producteurs. Donc voilà, après, bon, moi j'ai laissé la main, hein, parce qu'on ne peut pas toujours suivre partout. Il a fallu faire hein, à des périodes des choix où il faut aussi que la personne, enfin l'organisme tienne, quoi, parce que travailler en vente directe, c'est pas de tourpeau. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était trois métiers. On ne peut pas faire trois métiers dans 8 heures par jour, c'est pas possible. C'était souvent des 13-14 heures par jour. Et quand vous avez des animaux, c'est 7 jours sur 7. Donc au bout d'un moment, on finit par s'user, quoi. Mais tous mes clients regrettent beaucoup qu'on ait arrêté. Mais je leur dis que, comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une vie, on n'en rachète pas une d'occasion quand la première est foutue. Donc, et pour l'instant, on a trouvé personne pour reprendre le flambeau. Voilà. Donc, bon, la retraite va arriver dans un an ou deux. Peut-être que la structure pourra se reprendre pour faire de la vente directe pour des gens courageux, surtout, et qui n'ont pas peur de travailler. Voilà.
Ça aussi, c'est une bonne problématique, le devenir de l'agriculture. Est-ce que cela suscite des remarques, des questions? Bon, donc on va continuer avec vous, monsieur Jean. Oui?
Je vous amène le micro.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la démarche Terre de Liens,
oui, oui,
qui rachète des fermes? Vous avez mis une annonce?
Non, pas pour l'instant, parce que je ne suis pas forcément prêt dans ma tête à passer le flambeau. C'est dans un coin de ma tête, mais... Si vous voulez ce genre de démarche, il faut être prêt. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais être à la retraite, j'aurais pu partir au mois de janvier. Mais il faut s'y préparer et je ne suis pas encore prêt à partir. Donc, je veux éviter de trop anticiper, parce que je ne veux pas qu'on me mette à la porte, déjà. Et bon, le problème, c'est faut que ça mûrisse. Mais oui, je pense. Bon, j'ai déjà essayé autour de l'exploitation de mettre. Bon, je ne l'ai pas dit, mais on a une petite partie en bio. J'ai essayé de mettre tous les parcours, tout ce qui était ce qui servait au porc et au volaille en bio pour que éventuellement demain ce soit une exploitation qui puisse être reprise en vente directe bio. Mais je pense, oui, à Terre de Liens pour l'instant. Mais pour l'instant, je ne veux pas faire la démarche tant que je ne suis pas prêt dans ma tête.
Merci beaucoup. Donc j'allais demander à Monsieur Montembeau de bien vouloir nous présenter. Je vais juste mettre.
Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-Luc Montembeau. On va parler un petit peu de tourisme, plus spécifiquement de nos tourismes et de nos touristes dans le vignoble de Cognac. Moi j'ai créé une agence de voyage réceptive il y a une douzaine d'années. Alors, une agence de voyage, tout le monde sait ce que c'est. La seule différence avec la mienne, c'est que vous ne pouvez pas venir acheter un billet de train, puisque moi, je ne fais que recevoir. Donc, je suis réceptif. Et je suis le genre de type qui a un petit drapeau dans la main à la sortie de l'aéroport ou sur la gare TGV pour récupérer des groupes, et principalement des groupes de touristes étrangers plus que français, à mon grand regret, mais ça changera peut-être un jour. Et donc l'agence s'appelle Cognac Testing Tour. L'agence fait partie de plusieurs réseaux, dont un qui s'appelle Vignoble et Découverte, qui est un réseau qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture, le ministère du Tourisme. Et puis, accessoirement, je suis certifié cognac éducateur par le Bureau national du cognac. C'est-à-dire que, suite à plusieurs formations, j'ai été certifié comme étant capable de présenter le cognac du pied de vigne au pied de verre et même vous aider à le déguster. Donc, c'est ce dont on va surtout parler maintenant. Alors, il y a tout un pan historique, culturel sur le cognac. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. On verra qu'on fera peut-être des apartés, mais très, très courtes. Alors, si je fais ça, ça marche. Alors, un préalable, c'est qu'on parle d'alcool. Et donc, ça fait partie des règles du jeu. Ce que j'explique à tout le monde, et en particulier aux jeunes qui viennent découvrir le cognac, c'est que le cognac, c'est un produit pour lequel on prend du temps pour l'élaborer. Et donc, on est autorisé à prendre du temps pour le déguster. Et comme dit un de mes voisins qui est tout à fait d'accord, le cognac, ça ne se boit pas, ça se déguste. Et donc, je dis qu'on peut prendre plus de 25 secondes pour boire un cognac qui a pris 25 ans d'élaboration. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de beaucoup de repères, 3 centilitres de cognac, c'est équivalent à un verre de vin. Et donc, 2 fois 3 centilitres, eh bien, on s'arrête de conduire. Le mieux, c'est d'avoir un chauffeur. Puisque je suis guide, donc ça, je ne pourrais que vous encourager à prendre un chauffeur qui, en plus, connaît la région. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, voilà. Ceci étant dit, on va parler un petit peu plus précis de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, je cherchais, puis je me suis dit, je ne vais pas vous parler du cognac, mais je vais vous parler des cognacs. Et les cognacs, c'est une histoire de goût et de couleur. Alors, tout le monde est habitué au cognac, enfin, du moins, dans l'imaginaire familial. C'est le truc qui est dans l'armoire du grand-père qui doit sortir une fois par an au moment du réveillon ou quand on y va de temps en temps. Et puis pour d'autres, c'est la bouteille qu'on achète à l'aéroport dans les duty-free parce qu'il y a d'énormes palettes. Et tout le monde, les retours que j'ai, j'en ai encore eu un tout à l'heure, en disant oui, mais ça, c'est un truc, on n'en boit plus. Alors on parlait de l'Armagnac, mais c'est comme l'Armagnac est un cousin du cognac, on est sur la même problématique. Et en fait, il n'y a pas un cognac, mais il y a des cognacs qui sont très variés, très différents les uns des autres. Et en fait, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais on peut trouver son bonheur dans le monde des cognacs. Alors moi, je vais vous parler de la richesse aromatique. Vous allez être un petit peu surpris, parce que, juste pour préambule, le cognac est le produit dans lequel il y a le plus grand nombre d'arômes de tous les produits alimentaires au monde, qu'on les mange ou qu'on les boive. Donc c'est le plus riche en arômes. Il y a une grande variété de producteurs, contrairement à ce qu'on imagine. Si je faisais un petit sondage en vous demandant de me donner des noms de producteurs de cognac, je pense que vous me donneriez 2 noms d'Armagnac et un nom de cognac. Donc il y a un petit peu de travail aussi de ce côté-là, et je vous expliquer pourquoi. Et puis le cognac, ça se boit pas, ça se déguste, mais on peut déguster tout en mangeant. Et on peut faire des repas au cognac. Et donc ça, je vais vous en parler un petit peu aussi. Alors, d'abord, on parle d'arôme dans le cognac. Et en fait, moi, j'ai une masterclass. Donc là, j'ai repris quelques visuels que j'utilise régulièrement. Et en fait, le cognac, ça peut se présenter comme le parfum. Ceux qui sont allés à Grasse ont vu l'élaboration des parfums, ont vu qu'on fait de la distillation, et l'alcool va capturer des arômes. Le cognac, c'est exactement la même chose, avec une grande différence à la fin. C'est que dans un cas, on le met sur la peau, dans le cas, on le boit. La deuxième chose, vous avez à droite, là, vous avez des couleurs. Qui présente une variété de cognac. Alors, là, il y a une bouteille où c'est transparent. Ça peut se boire, mais ce n'est pas recommandé. Enfin, du moins, pas au tout début. Et puis, au fil du temps, la couleur va changer. Et en fait, c'est le producteur qui va décider de la couleur qu'il va donner en fonction des goûts qu'il veut mettre dans son cognac. S'il veut beaucoup de boisé, pas beaucoup de boisé, avoir des arômes particuliers ou avoir un équilibre, c'est lui qui va choisir le mode de vieillissement. Et on me dit souvent, un cognac, ça doit être une certaine couleur. Ben, je dis oui, souvent c'est un espèce d'acajou. Elle me dit oui, c'est exactement ça. Ben, je dis oui, c'est normal, ça c'est parce qu'on met du caramel, parce qu'on est pressé de le vendre. Donc c'est pas la même histoire. Et donc les bons cognacs, on met pas de caramel, donc pas de sucre, parce que souvent le sucre aide à améliorer le goût, on va dire, et aide à boire. Et donc là, on a toute une palette et chaque producteur va choisir sa palette aromatique et donc la couleur qu'il va donner à son cognac. Donc un cognac clair n'est pas nécessairement signe d'un mauvais cognac et un cognac foncé n'est pas nécessairement signe d'un très bon cognac ou d'un très vieux cognac. Hein, et c'est compliqué parce qu'on ne peut pas le lire sur l'étiquette non plus. Alors voilà, voilà ce qu'on fait en matière de dégustation. Donc on a un petit livret, on a des verres quand même parce qu'on peut sentir. Une chose qui est importante, c'est que quand on fait une dégustation comme celle-ci, en fait, on va découvrir le cognac, mais on va surtout se découvrir. C'est-à-dire qu'avec les mouillettes, merci, les mouillettes de parfumeur, je propose des arômes de base. Un arôme de base, ça va être de la violette, ça va être de l'abricot, ça va être du chêne, ça va être de la vanille. Systématiquement, tous les gens avec qui viennent faire ça à la maison, enfin chez moi, vont me dire, ah oui, ça je connais ça. Ah ça ce parfum-là, j'ai déjà croisé. Ouais, c'est lequel ? On n'est pas capable de mettre un nom dessus, ou très difficilement. Et selon le pays d'origine des gens, les arômes qu'ils reconnaissent vont être différents. Donc il y a eu une habitude sensorielle très forte, on dit, ah oui, ça je connais. Et puis après, on dit, donner le nom, ça devient très compliqué. Alors, un arôme très basique dans le cognac, c'est l'arôme de chêne, puisqu'on met ça dans des fûts de chêne, normalement, dans des fûts de chêne. Les gens tous me disent, ah oui, ça sent un truc, ça je connais, ça. Je dis, ça vous fait pas penser au charpentier. Ah oui, c'est ça. Mais c'est quel arôme ? C'est le chêne ? Ah, bah oui, effectivement. Et donc, entre le produit qu'on va sentir, le produit qu'on va déguster et les arômes qu'on va y associer, c'est pas toujours facile. Et les gens se disent, ah oui, ça je l'ai croisé quand j'étais petit. Où je me souviens, chez ma grand-mère, ça sentait comme ça quand elle faisait tel type de cuisine. Donc on va retrouver des sensations et des choses intéressantes, mais qui sont particulières à chacun d'entre nous. Et c'est là où je dis, chaque personne va se découvrir ou va se remémorer son histoire, ce qu'elle a croisé, ce qu'elle a vécu. Il y a des cognacs dans lesquels on peut sentir, par exemple, le coco, un Asiatique, il va vous trouver ça en 20 secondes. Moi, la noix de coco, avant que je la retrouve, il va se passer quelques heures. Il faut qu'on me le dise et qu'on me le confirme. Donc voilà, c'est chacun va retrouver. Et donc, en fait, moi, je dis au niveau de la dégustation, il y a deux types d'approches qu'on retrouve. Il y a l'approche intellectuelle, c'est-à-dire la personne qui va dire, il faut que je trouve si c'est de la poire ou si c'est de la pêche, il faut que je trouve si c'est un fruit ou un autre, une fleur, etc. Et puis, il y a la majorité, et je rassure tout le monde, c'est normal, d'approcher le cognac ou d'autres produits comme on fait de la cuisine, de façon intuitive. Quand on cuisine, on dit, ah tiens, on sent au-dessus de la gamelle, on dit, ah, il manque un peu de quelque chose et on rajoute quelque chose. On ne va pas chercher à savoir et à décomposer ce qui sort de la gamelle. On va faire sa cuisine en complément. Alors, je ne parle pas des grands chefs, 3 étoiles et autres, qui, eux, sont dans une toute autre problématique, exactement l'inverse. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Et donc, quand on est face à un cognac, c'est une approche qu'on peut tout à fait avoir. Et je sais que quand on visite certaines maisons que je ne nommerai pas, pas de raison de leur faire de la pub, elles sont assez grandes comme ça, on vous explique qu'il y a plein d'arômes, il y a des noms, etc. Et on vous dit, mais vous ne sentez pas ? Mais non, parce qu'on n'est pas habitué, et c'est normal. Et ce n'est pas nécessairement la bonne approche sur le cognac. Alors là, vous allez avoir une roue des arômes. Voilà, tous les arômes. Alors ça, c'est présenté de façon assez jolie. C'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et tous les arômes qu'on peut associer. Donc là, il y en a plus de 40, il y en a une soixantaine à peu près. Et on va les retrouver par classe. Alors le petit jeu, c'est de dire à quel moment ils apparaissent, ces arômes, et comment on peut les associer. Alors il y a des arômes de base, et le cognac est un produit qui va vieillir et qui, au fil du temps, va avoir ses arômes évoluer. Et c'est tout l'intérêt de faire de la dégustation autour du produit. Et tous ces arômes-là sont issus uniquement de deux choses. C'est du raisin qui a servi à élaborer le vin qui a été distillé pour faire l'eau de vie, puis le bois. Et c'est uniquement avec ça. Et le bois doit être exclusivement du chêne, et qui a servi exclusivement à élever des eaux de vie de cognac. Tout le monde a entendu dire que le whisky vont acheter des fûts en Espagne ou même maintenant du rhum, parce qu'en fait, il manque un peu d'arôme, donc ils vont essayer de récupérer les arômes au travers de... Alors, ils n'achètent pas d'adjuvant, quoique, je vous entendais, mais je ne vous ai rien dit. La région de Cognac est la première région au monde pour la production d'adjuvants pour les vins et spiritueux. Quand je dis adjuvant, c'est des poudres, des liquides, des chips, des tout ce qu'on veut. Mais on en vend partout, sauf à Bordeaux et sauf à Cognac, puisqu'on est dans des AOC. Donc, il n'y a aucun problème. Les arômes vont partir uniquement du raisin et du chêne, et on va trouver toute cette palette au fil du temps. Alors, vous voyez qu'on peut s'amuser avec les arômes, et on a de quoi passer du temps tranquille. Et à plusieurs, c'est plus rigolo, parce que comme on ne retrouve pas les mêmes choses, mais on dit rarement de bêtises. C'est ça qui est intéressant aussi. Là, je vous ai juste présenté un autre aspect des quatre grandes familles. Donc, vous avez en haut à gauche des fruits, les notes fruitées, en haut à droite, les notes florales, puis les notes boisées en bas à gauche et les notes épicées en bas à droite. Et en fait, les arômes vont apparaître au fil du temps. Alors, je vais en prendre un assez facile à trouver, entre guillemets. C'est en haut à gauche, c'est sur les notes fruitées, c'est l'abricot. Alors, il faut imaginer que dans la bouteille ou dans le litre d'eau de vie, vous avez une grande quantité de molécules aromatiques d'abricot. Et au fil du temps, cette molécule va s'oxyder par toute une technique de vieillissement. Et l'oxydation va faire que cette molécule va se transformer. La quantité de molécules abricot va se réduire. Et les autres molécules qui sont au-dessus, comme les amandes, l'orange, le pruneau, vont apparaître au fil du temps. Et donc, tout ça, c'est l'évolution du cognac. Et alors, c'est une particularité qu'il faut connaître. Il y a eu quelques scandales il y a quelques années de gens qui essayaient de vendre des très vieux cognacs en expliquant que... Et puis en fait, ils faisaient de l'assemblage en essayant de rajouter. Mais quand vous voyez qu'un cognac de 50 ans, tout ce qu'il peut y avoir, il faut être cohérent entre les arômes de bois et les arômes de fleurs. Et c'est là où les très grands professionnels du cognac savent dire ça, c'est un truc qui a été bricolé. Ou ça, c'est une vraie vieille eau de vie qui a été naturellement vieillie et qui porte vraiment tous les arômes. Hein, donc vous voyez qu'il y a, au niveau aromatique, il y a ce qu'il faut et ça évolue au fil du temps. Donc je ne pourrais que vous encourager à essayer de déguster des vieux cognacs parce que c'est quand même beaucoup plus riche aromatiquement. Et puis comme il n'y a plus d'ester qu'est l'alcool qui brûle, c'est quand même gustativement aussi beaucoup plus intéressant à boire. Alors, grande variété aussi des producteurs. Les producteurs, en gros, je vais vous donner quatre noms que vous devez sûrement connaître. Le premier par ordre de taille, c'est Hennessy. Hennessy, c'est 55% des ventes mondiales de cognac. Donc c'est difficile de ne pas le croiser dans un aéroport ou même ailleurs. Et puis si on prend Hennessy, Rémy Martin, Martel et Courvoisier, vous avez 87 à 88% des ventes mondiales de cognac. Il y a une douzaine d'autres noms qui correspondent à des négociants plus petits. Et tous les négociants sont là. Donc Hennessy est dans cette case-là. Donc les gens qui sont là, ils sont en gros une vingtaine et ils représentent 98% des ventes mondiales de cognac. Par contre, ces gens-là possèdent glorieusement 2% du vignoble. Certaines maisons, et le revendiquent, enfin, du moins l'annoncent ouvertement, comme Courvoisier, n'ont aucune vigne. Donc ils ne font qu'acheter des eaux de vie. Les eaux de vie, c'est ce niveau-là. Et donc en fait, à l'autre bout de la famille, si je peux dire la famille, parce que ne sont pas toujours copains, vous avez les viticulteurs. Donc il y a 4000 viticulteurs. Donc ce sont des gens qui possèdent des vignes qui sont à même d'élaborer du cognac. Sur les 4000 qui ont des vignes, on va en trouver 2000 qui sont bouilleurs de cru, c'est-à-dire qui ont un alambic à la maison. Et sur les 2000, il y en a à peu près 200 qui vont vendre à la bouteille. Tous les autres vont soit vendre du raisin à des bouilleurs professionnels, soit distiller eux-mêmes et vendre aux négociants. Et ce qui est intéressant dans la grande variété des cognacs, c'est d'aller voir les 200 qui se trouvent là. Parce que là, on va trouver des produits très différents en couleur, en forme, en goût, en sol, en histoire familiale. Il y a des gens qui vous disent « Ah oui, on a un vieux truc, là, c'est l'arrière-arrière, ils vous sortent 5 fois arrière, grand-père, et ils vous sortent une eau de vie qui date de 1850. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il faut les trouver, il faut les connaître, mais là, on n'est pas dans le même monde que dans un cognac VS, qui est le plus vendu, mais qui a 3 ans avec un petit peu de caramel pour lui donner de la couleur et puis simplifier le goût. Et donc, on a vraiment plusieurs mondes. Et donc, il y a toute une richesse qu'on peut retrouver et une diversité qu'on peut retrouver au travers des différents producteurs. Et tous ces gens-là, malheureusement, enfin, je dis malheureusement ou heureusement, c'est comme on veut, c'est qu'ils sont disséminés dans la campagne charentaise, Charente-Maritime, et que le meilleur moyen pour les rencontrer, c'est d'aller les découvrir et d'aller sur le terrain. Alors, le dernier point que je voulais évoquer avant de terminer, c'est que donc, le cognac, ça se déguste, mais pas tout seul. Et donc là, vous avez un exemple d'accord entre du cognac et du fromage. Donc c'est un Brillat Savarin. Et donc en fait, le cognac est très riche en arômes. Je vous ai montré un cognac de 25-30 ans, on considère qu'il y a une quarantaine d'arômes différents, plutôt équilibrés. Et donc ce qui est intéressant, c'est de le goûter avec des produits qui sont des exhausteurs de goût. Alors un exhausteur de goût, ça va être à la fois un produit qui va être salé, le sel est un exhausteur de goût, et qui ont eux-mêmes leurs propres arômes, donc des produits plutôt gras, puisque le gras est aussi un capteur d'arômes. Donc à chaque fois que vous allez penser à un produit qui peut être gras ou salé, une huître par exemple, un jour essayez, vous videz l'eau de l'huître, vous la préparez, donc l'huître, vous avez retiré l'eau, mettez deux gouttes de cognac dans l'huître, et vous mangez ça comme ça, et vous reviendrez me dire ce que vous en pensez. Alors ça va avec le saumon. Le saumon, c'est un produit gras et légèrement salé. Ça va avec le foie gras. Ça va aller avec le fromage, les fromages. Il y a plein de fromages, y compris des fromages de chèvre. On peut faire des choses très bien. Pas trop vieux, pas trop dur, parce qu'à ce moment-là, c'est plus compliqué, mais des fromages un peu gras. Et donc, on peut s'amuser à faire des repas au cognac. Alors, je ne dis pas qu'il faut boire un verre de cognac avec chaque bouchée, parce que la quantité d'alcool reste là, on est d'accord. À titre personnel, je pourrais que vous encourager à le faire au niveau des entrées, pas le plat principal, parce que les viandes, c'est compliqué, ou certaines viandes blanches, mais relativement compliqué. Par contre, dès qu'on est sur certains légumes, tout à l'heure, on a parlé de la tarte tatin, alors là, du caramel, de la pomme, tout, alors extraordinaire. Là, deux tartes tatin, hein, avec les verres qui vont bien. Donc, les fromages. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Et on peut même continuer à casser les codes en allant sur une dégustation, alors plutôt en début de repas, sur du cognac qui sort du congélateur à moins 20. Et alors on est d'autant mieux placé pour le faire dans la région de Cognac, avec le cognac, c'est que la région de Cognac est la deuxième plus grande région productrice de vodka au monde. Pour ceux qui ne le savent pas, et la vodka la plus vendue aux États-Unis est produite à Cognac. Ça s'appelle Grey Goose, pour les jeunes là, qui connaissent le monde de la nuit. Et donc, on peut tout à fait boire du cognac comme on boirait de la vodka, c'est-à-dire à moins 20. Et à moins 20, vous avez un choc thermique dans la bouche. Alors, il ne faut pas prendre le verre, 2-3 gouttes. Et vous avez une évolution des arômes en bouche qui est extraordinaire. Et moi, c'est la seule chose que j'autorise à mes enfants. Alors, je vous rassure, mes enfants ont 18 ans. La dernière, il n'y a pas très longtemps, mais elle a ses 18 ans. Je les autorise à boire du cognac, mais je vérifie que c'est modéré. Et à manger en même temps, et c'est le seul moment où je leur dis, tu peux mettre en bouche et l'aliment et le cognac qui va avec, parce qu'il y a un assemblage ou une complexification aromatique en bouche qui est extraordinaire. Donc je vous encourage vivement à venir voir tout ça. On ne le fait pas aujourd'hui, mais peut-être qu'une autre fois, on pourra, avec le fromage, faire un petit peu de cognac.
Oui.
Et avec les huîtres aussi, mais pas que, hein.
Il faudra refaire une table ronde pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Montembeau. On va continuer avec Monsieur Laurent Jean-Claude, si vous voulez bien présenter votre projet, votre activité.
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle un porteur de projet, vu que je suis en train de créer mon entreprise, qui est un peu une deuxième vie professionnelle pour moi, car j'ai travaillé pendant 18 ans dans le spectacle, en tant que technicien, régisseur. Pendant 12 ans en tant qu'intermittent, éclairagiste avec des groupes, des compagnies de théâtre, danse, j'en passe et des meilleurs. Et ces dernières années où j'étais au TAP, donc toujours régisseur général, dans un lieu un peu plus institutionnel que ce que j'avais pu vivre auparavant, ce qui correspondait pas vraiment avec mon état d'esprit, vu que j'étais venu dans ce métier par passion et que là, bon, c'était plus pareil, c'était autre chose, quoi. Et en fait, j'en viens à cette activité donc que je vais créer, qui est un bar à jus en centre-ville de Poitiers, qui s'est un peu imposé à moi comme ça lors d'une de mes dernières vadrouilles en tournée. Aux États-Unis plus précisément, où j'ai constaté beaucoup de bars, enfin de commerces de ce type-là, et puis en connaissant des gens sur place qui m'expliquaient que c'était une grosse évolution aussi aux États-Unis ces 5 dernières années, S'il y en avait beaucoup, il me disait même il y en a même plein au Texas, donc c'était un peu le signe que ça avait le vent en poupe. Et du coup, voilà, en rentrant de cette tournée-là, je me suis renseigné un peu en France ce qui se faisait. Et en fait, je n'avais pas beaucoup d'infos parce que tout est en train de se créer ces derniers temps. Plus ça va, plus dans les grandes villes, on commence à le voir. Bon, à Paris, j'en parle pas, mais à Tours, que ce soit à Tours, Bordeaux, je crois aussi récemment, Toulouse, voilà. Donc l'idée, c'était vraiment ça. Et puis aussi d'être moi-même, depuis que j'ai ma fille, je suis sensibilisé à ce que je lui donne à manger. J'ai toujours fait attention à ça. Et puis donc voilà, c'était quelque chose qui me parlait. C'est une grosse consommatrice de jus de fruits. Donc ça faisait un moment que j'en faisais parce que quand je regardais les compositions de ce que je trouvais en grande surface, y a pas beaucoup de fruits dedans. Hein. Donc voilà, du coup c'était vraiment dans cette démarche-là et aussi ce côté un peu challenge que j'aime bien et passion. Donc voilà. Donc là l'idée c'est vraiment de faire un bar à jus, alors un peu à l'américaine entre guillemets, mais plus sur le mode de service qu'autre chose. Où je fais en fait de la vente au comptoir et puis les gens restent, enfin ils sont invités à rester ou ils peuvent aussi repartir chez eux avec leurs bouteilles. C'est vraiment parce que moi vraiment dès le début c'était alors je veux faire que du local, je veux faire du zéro déchet, je veux faire limiter taxe carbone tout ça. Bon. Après, on n'est pas dans le Languedoc-Roussillon, malheureusement. Donc, je me suis vite rendu compte que j'allais être très vite limité par rapport aux produits que j'allais trouver ici. Donc, il fallait que je revoie un peu l'idée. Donc, ça va être vraiment les producteurs locaux, principalement. Sauf ce que je ne vais pas pouvoir trouver et que je peux difficilement ne pas proposer dans un bar à jus, que ce soit en termes de fruits. Voilà, donc ça va être de l'importation. Là, je suis en faisant très attention parce que je me suis aussi rendu compte que le bio, le bio en Espagne, il n'est pas le même qu'en France. Hein. Voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai appris au fur et à mesure et à bien regarder et à faire attention à tout ça. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie produit à la base. Après, moi, je voulais donc limiter les déchets. Donc, c'était. J'avais quoi comme alternative ? Proposer du gobelet plastique, hors de question. J'ai été un peu à chercher partout, voir ce qui se faisait aussi dans les autres villes. Là, je suis parti sur du verre, à me dire, en fait, je vais faire une bouteille qui va être consignée, puis je vais essayer de faire un beau design dessus pour qu'elle soit jolie, puis que les gens aient envie de la garder, en fait. Et puis aussi qu'ils aient surtout envie de revenir avec, parce que vu qu'ils l'auront payé, voilà. Donc c'était vraiment le délire pour moi là-dessus. Ce qui m'a fait aussi travailler du coup avec des graphistes pour avoir quelque chose de beau, et puis qu'on ne trouve pas partout, et que ça ne fasse pas un peu cheap, quoi. Je voulais que ce soit chouette, quoi, vraiment. Donc voilà. Et puis pareil sur les déchets, de me dire, mais je vais en faire quoi de tous mes déchets je vais pas les sortir sur le trottoir, donc voilà, voir avec les fournisseurs si ça les intéresse d'avoir de la matière pour faire du compost, des choses comme ça. Donc voilà, toutes ces choses là. Pardon ? Oui, mais alors le problème c'est que vu que les jus vont être faits à l'extracteur, quand ça sort de l'extracteur, il y a plus beaucoup de c'est sec, quoi. Donc pardon ? Oui, c'est ça. Du coup c'était vraiment dans cet objectif là venir, et puis parce que je suis pas du tout du métier, j'ai déjà même mon premier métier je l'ai appris sur le tas, je suis autodidacte tout le temps surtout, donc voilà, et donc c'est ça, cette espèce d'apprentissage que j'ai là depuis le mois de mai dernier maintenant, où j'apprends au fur et à mesure, donc ça m'intéresse beaucoup d'être là et puis d'entendre aussi fait ailleurs, notamment sur le cognac, je pensais pas. donc voilà, quoi. Alors l'adresse, je n'ai plus numéro en tête parce que c'est tout récent. Là je suis dans la dernière ligne droite là pour l'ouverture, donc ça va se trouver place du Palais de Justice, en centre-ville. C'était un coiffeur qui était là avant, qui s'appelait Au mille et une coiffures, je crois. Et donc l'ouverture est prévue début avril. Voilà. Que des jus de fruits et légumes. En mélangeant aussi. C'est vrai que moi des jus de fruits, ça fait longtemps que j'en fais, notamment pour ma fille. Et ce que j'ai beaucoup découvert, c'est ces mélanges justement de saveurs entre les fruits et les légumes, où monsieur parlait d'exhausteurs de goût. Moi, j'ai appris à combiner entre un fruit et un légume, à multiplier cette sensation de goût, ou même trouver un autre goût qui était différent et qui est passionnant pour le coup. Voilà, donc c'est un peu de la chimie, hein, mais c'est très amusant à faire pour moi. Je m'éclate beaucoup à faire ça avec beaucoup de ratés aussi. Mais du coup, c'est assez excitant. Donc oui, c'est des jus. Là, pareil, je suis en lien aussi avec sur l'aspect... Alors, c'est pas nutrition parce que j'ai pas pour prétention de faire des jus détox. Après, les gens, s'ils ont envie d'appeler ça comme ça, ils l'appellent comme ça. Moi, ça m'est égal. Mais en tout cas, sur les différentes combinaisons, sur les aliments aussi ont des propriétés pour le corps. Donc voilà, du coup, j'ai découvert que la betterave avait cette vertu de fixer, par exemple, l'oxygène sur les muscles, donc c'était plutôt bon d'en consommer avant d'aller faire du sport, des choses comme ça. Donc c'est plus des petites choses comme ça qui, moi, m'intéressent et que j'ai envie de faire partager aux gens sans prétention d'être de soigner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà. Mais du coup, c'est assez excitant de faire tout ça. Voilà. Exactement. Oui. Oui, il y a des petites. C'est quelque chose que, au début, je copiais beaucoup, hein, pour rechercher aussi un peu les récurrences, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis là, voilà, maintenant, j'ai lâché les chevaux. Et puis, et donc, je teste des choses en essayant d'incorporer des petites choses amusantes parce que je viens du métier du spectacle et c'est vrai que j'ai envie que ce soit fun et que comme des restaurateurs ont envie que leur cuisine soit fun et qu'il y ait des petites choses qui se découvrent, quoi. Exactement.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous pourrez peut-être nous transmettre l'adresse de votre bar, comme ça on la diffusera sur les réseaux. On a hâte d'aller faire un tour dès que ça ouvre. Donc maintenant, on va passer à la présentation de Monsieur France Génaud. Hop, si vous le voulez bien. Merci.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis France Génaud. Je suis à la fois dans les sciences molles et les sciences dures, comme le dirait Anne-Marie Cocula, ou à l'interface des deux. Je suis à la fois chercheur associé à l'université de Poitiers en géographie, laboratoire qui s'appelle Ruralité, mais à la base, je suis plus sur la filière des fromages de chèvre. Donc je vais utiliser en fait un support cartographique principalement pour... vous parlez un petit peu de ce que moi je vois derrière goût et terroir. Merci. Au travers de mon expérience sur les fromages de chèvre. Ce que je vais vous proposer, c'est un voyage autour des questions des paysages, d'histoire, de culture, de production par terroir, de signes de qualité, parce que le goût, ça me semble un sujet d'interface à plusieurs dimensions. Qui est difficile de d'appréhender d'ailleurs. On le verra dans ma présentation, mais c'est vrai qu'on a, on a différents labels pour identifier la qualité. Le mot qualité a été utilisé plusieurs fois. Et sur le goût, on voit que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a du mal à se dire que tel ou tel aliment va être meilleur que tel autre ou telle recette meilleure que tel autre. Et pourtant, c'est bien aussi un des enjeux, je pense, de cette thématique-là. Je vous parlerai également un peu de patrimoine gastronomique et puis des acteurs de l'accueil et des sites agritouristiques. Alors ça a été évoqué déjà plusieurs fois, mais moi je crois beaucoup dans une ambition que nous devrions avoir les uns et les autres dans cette région, de rassembler les acteurs. Alors je parle en particulier du monde agricole et en particulier des fermiers ou des indépendants qui sont pour le coup plus indépendants. Et M. Baricot l'a dit, c'est toujours difficile de passer du temps à l'extérieur de sa ferme quand on a une activité fermière en particulier. Et pourtant, je pense que ça passe aussi par cette capacité à se fédérer, la possibilité de développer le lien au goût et de faire en sorte qu'on se l'approprie plus les uns et les autres. Alors par ailleurs, je suis membre d'une association de goûteurs de vin, d'œnologie, en plus des fromages, donc je suis aussi très intéressé par les associations. On le verra. Sur l'approche régionale, la première chose que j'avais envie de dire sur cette question des goûts et des terroirs, c'est qu'on a une région qui est particulièrement grande, ça a été dit en introduction, et on a une diversité très importante de paysages et donc de terroirs. Et cette diversité va se retrouver à la fois dans les histoires, mais aussi dans les productions qui sont présentes sur ce territoire-là. On l'avait évoqué avec Anne-Marie Cocula à l'occasion de la réflexion sur le nouveau nom de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai qu'on a un peu l'idée d'une région patchwork ou mosaïque, où on a une très grande diversité de terroirs et où on a des productions, encore une fois, qui sont très différentes et qui produisent en fait des identités infrarégionales, locales, qui sont fortes et diverses. Ce qui à la fois est une richesse et en même temps rend les choses plus compliquées pour peut-être s'identifier collectivement à cette échelle-là et de produire une capacité à travailler ensemble. Et pourtant, je pense que c'est un des enjeux forts pour notre territoire à cette échelle-là. Si on reprend la carte, par exemple, des productions agricoles sur ce territoire-là, cette carte l'illustrant, on voit bien que chaque terroir, on a évoqué le cognac, mais on pourrait évoquer le bovin ou les ovins-viandes sur le Limousin en particulier, les productions hors sol en Nord-de-Sèvres, les productions de vignes sur le Bordelais, les productions d'ovins, par exemple fromage de chèvre au Soirati sur les Pyrénées et d'autres productions telles que celle-ci. On voit bien en fait que chaque terroir a ses productions qui sont reliées à des paysages particuliers, à des sols particuliers et qui en même temps produisent ou ont produit sur le temps long en fait une culture particulière, y compris gastronomique pour les populations qui y habitaient. Le canard foie gras, par exemple, sur le sud-ouest, c'est quelque chose de particulier qu'on a moins sur notre territoire. Inversement, les paysages à bovins de bocage sur le nord de Sèvres ou sur le Limousin sont également très identitaires de ces territoires-là. Donc on voit bien que le sol, la production et donc les cultures et les identités des populations qui y habitent sont rattachées en fait à ces différents territoires-là. Et cette diversité-là, pour moi, elle est importante sur la question du goût. Parce que le goût, c'est avant tout une question de culture. Ça a été dit plusieurs fois dans les présentations des personnes autour de la table ronde, mais c'est très lié à la culture. Et encore là, on n'est qu'à l'échelle d'une région, aussi grande soit-elle, en France, mais on pourrait l'élargir à l'échelle mondiale. On n'a pas tous les mêmes habitudes alimentaires, et ces habitudes nous invitent à penser différemment le goût, et le bon goût en particulier, qu'on soit hédoniste ou pas. Alors, je fais un pont maintenant des productions agricoles au signe de qualité, parce que du coup, ces histoires sur le temps long, encore une fois, on produit ces cultures et on finit par produire des identifiants SICO, des signes officiels de qualité. Là, je vous ai remis la carte qui a été réalisée par l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Il y a un peu plus de 200 signes officiels de qualité sur cette région, ce qui est la plus grande région, d'ailleurs, pour information en nombre de signes de qualité en France. Il y a eu un petit débat avec l'Occitanie parce qu'ils en ont également énormément, mais en tous les cas, c'est une région où il y a beaucoup, beaucoup de signes de qualité officiels qui marquent en fait ces terroirs localement et qui sont des identifiants de notre rapport au goût et de notre rapport à notre culture locale. Cette culture étant, il faut le rappeler, au départ plutôt une culture paysanne. La France a un monde paysan particulier. Henri Mandras, le sociologue, nous indiquait que à la fin des années 60, la fin des paysans, donc la fin d'une culture paysanne qui est chaque année renforcée un peu plus par la disparition d'exploitations agricoles. Mais malgré tout, ces productions, ces produits, ces terroirs sont bien marqués par cette culture paysanne et donc les produits qui étaient rattachés à ces terroirs et ces productions. Alors je vous indique, pour information, il y a un travail qui a été fait, je fais un lien entre ces SICO et qui ont été complémentés à l'ANA par un travail qui a été fait sur un inventaire du patrimoine gastronomique qui enrichit ou qui élargit en fait le champ des signes officiels de qualité, puisque toutes les productions, on va dire, locales ne sont pas identifiées par des signes officiels de qualité. Et donc, à l'ANA a été fait un travail de recensement des produits gastronomiques identitaires de nos terroirs en Nouvelle-Aquitaine. Ça reprend, pour ceux qui l'ont connu, en fait, le travail qui a été fait par le CNAC à la fin des années 80, au début des années 90, le Centre national des arts culinaires, qui identifiait sur l'ensemble de la France, région par région, en fait, ce qui spécifiait les terroirs et leurs différentes productions. C'est très très riche, donc vraiment, en fait, si vous êtes intéressé, demandez à l'ANA ce document, il n'y en a pas en très grand nombre, donc je vous le dis ici, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les connaître, parce que ça élargit le champ des signes de qualité qu'on peut connaître sur la région. Là, je fais un pont sur les fromages de chèvre, donc là, l'échelle régionale. Les fromages de chèvre, c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt le Poitou, sur cette grande région. malgré tout, la diversité existe aussi sur cette échelle-là, puisqu'on a des fromages, par exemple, qui s'appellent la feuille du Limousin, du côté du Limousin. Le Cabécou du Périgord est un petit peu plus connu du côté de la Dordogne. Et puis, on a la Tomme des Pyrénées, qui est en format IGP, identification géographique protégée, qui est connue surtout pour la vache et la brebis, mais qui existe aussi pour les fromages de chèvre, puisque se développe l'élevage de chèvre également du côté des Pyrénées. Et puis, en Poitou, on a le Motet sur feuille, le Chabichou du Poitou à Oupé, et puis un certain nombre d'autres fromages, mais ça va être l'occasion pour moi de vous en parler un petit peu plus sur cette question de diversité, de goût, de terroir, et au-delà de la question de la diversité des formes. Ce schéma va faire écho à ce que présentait M. Montembeau sur la filière des cognacs. En fait, moi, ça me semble important d'avoir en tête comment sont répartis en fait, les producteurs dans leur filière, entre les producteurs fermiers, par exemple, et les producteurs qui vont livrer leur lait de chèvre à des industries. Ça, c'est un schéma France qui serait encore plus... encore renforcé sur l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Mais en gros, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il reste 16% de producteurs fermiers, donc indépendants, qui transforment leur lait en fromage de chèvre à la ferme pour 84% de lait qui est livré dans les industries laitières. Et ça, ça va produire en fait des fromages, des produits qui vont être différents, évidemment, puisque d'un côté, on va avoir une très grande diversité de fromages fermiers. D'ailleurs, on peut être chez des petits fermiers, des gros fermiers, et là aussi, il y a une diversité. Et de l'autre côté, on va avoir des produits qui vont s'exporter. Donc de la même façon pour le cognac, sur la filière des fromages de chèvre, il faut que vous ayez en tête que plus de 80% ou 85% des fromages de chèvre français sont des fromages plutôt industriels, donc qui sont dans des process industriels, donc sur des gros volumes pour lesquels les industriels visent des marchés, notamment à l'export, enfin également français, mais aujourd'hui aussi à l'export pour 20% d'entre eux. C'est moins pour le cognac, mais ça se développe toujours un peu plus en fait au quotidien. Donc je pense qu'il faut qu'on ait en tête que sur la plupart des filières, quand on parle de goût et qu'on parle de produits de terroir, il faut quand même qu'on ait en tête que la grande filière, les grandes filières agroalimentaires en termes de volume en tous les cas en France, mais en Occident de façon un peu plus générale, sont des filières industrielles, donc qui dit des process industriels, donc qui dit en termes d'harmonisation et standardisation du goût, des produits qui vont être certes très homogènes, mais qui ne vont pas viser en premier lieu ni la diversité, ni le goût. Et je vais l'illustrer sur la répartition d'une approche de la ou des qualités qu'on pourrait avoir, par exemple, sur les fromages de chèvre, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, je ne sais pas si on commence par le bas ou par le haut. Je vous ai dit qu'il y avait 16% de produits fermiers, donc transformés à la ferme en fromage en France. En AOP, qui est un des signes officiels de qualité quand même les plus connus, en fromage de chèvre, on n'est qu'à 7%, par exemple, du volume de fromage de chèvre français. Bon, la bio, on est aux alentours de 2% pour ce qui est des fromages de chèvre. Les fromages au lait cru, c'est un signe de qualité sur la question du goût pour nous. On est aux alentours de 20% aujourd'hui en France, peut-être un peu plus, c'est pas très bien déterminé, mais ça donne une idée de ce qui reste de lait cru en fromage de chèvre en France aujourd'hui. Et puis, il faut avoir en tête que plus de 60% du volume des fromages de chèvre produits en France sont un seul produit qui est la bûchette. Et là, je ne vous parle pas du coup des fromages industriels, mais d'un fromage en particulier qui a un process de production très industriel et très efficace en termes de rentabilité et de productivité, qui est intéressant pour ça, pour les industriels, et qui permet d'avoir un fromage de chèvre à pas cher, parce qu'en gros, vous pouvez acheter aujourd'hui un fromage de chèvre, une bûchette, entre 1 € et 1,30 € à peu près, plus ou moins selon la marque. Donc ça a aussi des vertus. Maintenant, ça dit des choses très différentes sur le goût et sur le type de produit qu'on va avoir dans l'assiette, en dégustation, tant soit peu que ce soit pour chacun de la dégustation. Ça, c'est la répartition des fromages AOP. Donc ce que ça dit, ça, c'est que de fromages de chèvre AOP en France, il y en a 14. Ce que ça dit, c'est qu'on, par exemple, on est le plus gros bassin de production de fromage de chèvre en Europe, en Nouvelle-Aquitaine, en particulier en Poitou. Mais pour le coup, on a des producteurs, des acteurs qui ne se sont pas tellement intéressés à la question de l'origine, qui préfèrent vendre leur marque, que ce soit par exemple Lactalis, Soignon, Saint-Loup ou quelques autres, plutôt que développer en fait l'appellation d'origine du pays qui est le Chabichou du Poitou, par exemple. À la différence d'autres grandes productions fromagères, je pourrais citer le Roquefort ou le Comté, qui eux sont très très investis sur l'appellation d'origine. Ça n'a pas été le cas des industriels, en tous les cas, présents sur notre territoire à nous. Dans mon voyage, je m'arrête à une autre question qui est la question de la représentation. J'ai revu, je suis content, on est à Manes France et c'est pas innocent. Glenn Baxter est un ami de longue date de l'espace Manes France. Vous le retrouvez d'ailleurs dans l'actualité Nouvelle-Aquitaine ou dans les différentes cartes postales qui sont faites. Je le dis parce qu'il me semble que sur la question du goût, c'est très important, c'est aussi une question de représentation. C'est une question d'imagination, évidemment de culture, mais je pense que ce que fait Glenn Baxter sur son safari historico-gastronomique dans chacun des numéros de la Nouvelle-Aquitaine, en fait, participe de cette appropriation de notre territoire, de son identité, de ce qu'on y mange et du coup de ce qu'on est en étant dans ce territoire-là et dans ces dégustations-là. Si on regarde un petit peu plus près, en fait, il a identifié différents produits, que ce soit le farci poitevin, le scofa, que ce soit le chabichou, évidemment, le macaron de Montmorillon, et puis tout un tas d'autres, en fait, productions très locales. Ça rejoint d'ailleurs le travail qu'a fait Lana, je le redis, mais moi, ça me semble toujours intéressant, et on est dans les sciences molles, là, pour le coup, mais qui, pour moi, sont des sciences très intéressantes, pour autant. C'est finalement comment on se représente notre vie. Vous disiez que la vie est fragile et courte, et autant être hédoniste si on doit la vivre. Et je pense que c'est très important, cette question de représentation, de qui nous sommes et de comment nous le vivons au quotidien dans notre représentation mentale. Et je crois que chacun d'entre nous, dans sa façon de raconter sa propre histoire et sa propre activité, il y a de ce vécu, de sa passion et de l'imaginaire qu'en géographie culturelle, en fait, on aime bien ausculter. Alors, ça m'amène à vous parler des acteurs dont vous faites partie, certains d'entre vous, du goût. Et je pense en particulier au réseau, aux routes, à l'accueil à la ferme, bienvenue à la ferme ou au site agritouristique, parce que je pense que c'est des acteurs très importants dans le monde agricole, en tous les cas, au-delà des restaurateurs, au-delà des distributeurs, au-delà d'autres commerçants, de ce goût et de ce qui marque le ou les goûts et de leur diversité sur nos territoires. Et ils sont un certain nombre. Et là, je le dis aussi en tant que militant et en tant que membre de l'Institut du goût, c'est que je crois qu'on a un gros travail à faire régionalement pour fédérer, en fait, ces producteurs, je vais le redire en conclusion, mais pour mettre plus en relief, en fait, ce que vous évoquez les uns et les autres. Pardon ? Voilà, BRA, par exemple, l'italien, Slow Food, c'est exactement ça qu'ils font à une échelle bien plus importante que nous. Mais il faut pour cela qu'on soit en capacité de nous fédérer entre nous, entre les acteurs du goût au sens large, et en particulier les producteurs qui sont à l'amont, en lien avec les restaurateurs ou d'autres. Mais ça, on ne le fait pas pour les raisons que vous avez entre autres évoquées, c'est que ça demande une question de temps, ça demande aussi une question de volonté, notamment une question de volonté politique. Mais si on ne fait pas ça, on passera à côté, en fait, de la question du goût, je pense, de façon assez forte, parce que la vitrine, en fait, n'est pas l'image de Annecy, de Lactalis ou de quelques autres qui font des pubs à la télé, qui produisent de la culture par leur publicité. Et en produisant cette culture de masse industrielle, elle est ce qu'elle est, on peut en penser ce qu'on pense, mais toujours est-il qu'elle efface, qu'elle occulte le travail que vous faites au Blossac, le travail que vous faites dans l'agritourisme à Cognac, ou le travail que vous faites dans le restaurant, ou qu'on fait les uns et les autres dans nos routes agritouristiques ou dans les fermes qui s'ouvrent aux consommateurs. Ça me semble un enjeu très important. Et moi, je pense que l'Institut du goût est un levier, en fait, de ce travail-là. De la même façon, je le redirai, mais bienvenue à la ferme et d'autres réseaux. Là, je pense à mes collègues de la route des fromages de chèvre qui, aujourd'hui, est une nouvelle Aquitaine, font ce travail-là. Il y a une maison des fromages de chèvre qui existe également aujourd'hui, qu'on a développée à Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres, qui font des ateliers du goût, qui initient au goût. À nous de nous mettre en relation et en lien pour défendre, en fait, enfin, je pense que cet ordre-là, en tous les cas, faire plaidoyer sur cette question du goût, de la tradition, de l'origine, des circuits courts, parce que c'est transversal, mais avec une entrée du goût. Parce que le goût relie, en fait... non pas que ce soit une religion, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça malgré tout derrière ça. Bon, j'ai pris quelques exemples de ces routes, Osso Irati pour prendre un autre exemple, Accueil Paysan et Bienvenue à la Ferme sont des réseaux, des grands réseaux. Chacun d'entre nous, dans nos différentes productions, on fait des formations d'initiation au goût. Là, c'est un exemple d'un collègue de l'Institut du goût, d'ailleurs, Paul Lemince, qui est venu nous faire une formation d'initiation au goût sur les fromages de chèvre. Il y a tout un tas d'initiatives. Là, j'ai repris la roue des arômes qui fait écho aussi à votre roue des arômes du cognac. Alors, il y a aussi beaucoup, en fait, d'arômes sur les fromages de chèvre comme sur plein de productions. Là, vous avez les principales familles au milieu, mais on essaye, en fait, et on a beaucoup de retard sur les vins. Le cognac, je ne sais pas en quelle année vous avez commencé ce travail-là, mais sur les vins, ils ont commencé ce travail-là depuis beaucoup plus longtemps et ils ont éveillé, en fait, l'imagination des consommateurs du vin. Parce que chaque consommateur de vin en France, quand il boit son vin, enfin, s'il est dans un moment privilégié pour ça, il a la capacité à sentir le vin, à réfléchir aux arômes, comme vous l'avez décrit. Et je pense que sur les fromages et sur d'autres produits, mais les fromages en particulier, on doit aussi faire ça. Et il faut qu'on cultive cet apprentissage, cette transmission, comme vous l'avez évoqué, comme l'ont fait beaucoup plus les Italiens également. Je pense qu'on a, on a ce travail à faire et c'est un travail très important qu'il faut qu'on fasse également. Alors, j'avais aussi remis l'écho du cognac, on le retrouve ici, et on l'a fait sur le chabichou du Poitou en particulier. Celle d'avant, c'est sur les fromages de chèvre. Là, c'est en particulier le chabichou du Poitou qui l'a fait. Donc, c'est juste pour vous dire que dans plusieurs productions, on fait ça. C'est pas très connu, c'est pas très fait. Et là aussi, il faut qu'on développe ces choses-là. Sur les jus de fruits, je pense qu'on pourrait le faire. Sur la viande, c'est fait. Et les collègues, par exemple, Jean-Louis Vollier qui est dans la salle, sur la viande, ça se fait beaucoup aussi sur l'appréciation des différents produits agricoles de la région. On a un gros travail à faire, notamment auprès des jeunes, mais pas que. En lien avec les restaurateurs, en lien avec les artisans qui sont en lien. Nous, on fait aussi un concours de fromage de chèvre. J'y pense parce que cette semaine, il y avait le concours général agricole, vous savez, à Paris. Il se trouve que dans notre région, on a le deuxième plus grand concours après le CGA à Paris. Donc, on est plutôt fiers de ce travail-là. Je cite cet exemple-là, et ça se fait sur les vins, sur les cognacs aussi. On le fait avec l'ANA régulièrement, mais... Parce qu'en fait, je le redis, il n'y a pas d'identifiant, en fait, sur le, il n'y a pas de marque, de signe de qualité sur le goût. Il y a un AOP sur l'origine, il y a le bio pour l'environnement voire, et, ou la santé, il y a l'IGP sur l'indication géographique également, mais on n'a rien sur le goût, finalement, et c'est compliqué. Il y a Parker qui fait ça, sur les vins. Parker, il a osé, en fait, dire « je mets une note à un vin, sur 100, tel vin, tous les ans, je note les meilleurs vins et j'attribue une note, mais... » Finalement, c'est une initiative privée et collectivement, on ne s'est jamais aventuré à le faire parce que c'est compliqué de dire ça, c'est meilleur que ça. Ok, mais sur quoi c'est meilleur? Et encore une fois, en rapport avec quelle culture? Si on fait déguster à un Chinois du fromage de chèvre, ça va être difficile. Et certains fruits vietnamiens ou asiatiques, de la même façon, pour nous, sont très difficiles à consommer, par exemple. Donc le concours, je le dis parce que c'est une des actions ou des initiatives qui permettent d'estampiller un produit, une médaille sur une année donnée, à un producteur pour mettre en valeur en fait, le produit et donc son goût en particulier, le savoir-faire qui est derrière. Mais c'est une des rares actions qui existent pour labelliser en quelque sorte un produit et un producteur derrière cette initiative. En conclusion, et c'est un peu une conclusion militante, mais ceux qui me connaissent à l'Institut du Goût ou ailleurs savent que je défends ardemment ce travail que, pour lequel on a du retard. Je le fais à l'ANA et je souhaite qu'on le fasse en lien avec l'Institut du Goût et en lien avec les partenaires des réseaux d'accueil à la ferme également et d'autres. Moi, je pense que c'est un axe de développement collectif en fait, de notre région, de construction de notre région. C'est-à-dire que la diversité, pour moi, c'est une ouverture, ce n'est pas une fermeture sur un terroir, c'est vraiment une ouverture à l'autre. Mais encore faut-il qu'on soit en capacité en fait, de nous fédérer, de travailler ensemble, même si c'est compliqué. Mais ça, on a le faire, on a le produire, on a le proposer, en tous les cas, aux uns et aux autres, à la fois aux acteurs économiques, mais également au monde politique. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus de place à tous ces producteurs dont on parle ici, les uns et les autres, avec passion, et qui sont finalement pas mis tant que ça en relief. On a besoin d'une vitrine et on est petits, séparés les uns des autres, mais on sera plus forts, je pense, ensemble, même si c'est compliqué, même si ça demande de l'énergie. Il faut qu'on trouve le moyen de se fédérer, je pense, parce que c'est vraiment les ambassadeurs du goût et du terroir, pour revenir à la thématique de cette journée. Et je pense que ça passe par ça. Donc les fédérer et puis mutualiser des outils. Là, j'ai indiqué formation, information, recherche, développement autour du goût de Nouvelle-Aquitaine. On a beaucoup de structures, on a beaucoup de compétences, on a beaucoup de désirs, je pense, mais il faut qu'on ait une étincelle, il faut qu'on ait envie d'allumer ce feu pour que ça prenne et qu'on voit le goût et le terroir de façon différente, sans doute plus comme le font les Italiens, effectivement. Enfin, c'est passionnant d'aller en Italie, aller faire un tour en Italie du Nord quand il y a Bra qui souffle, par exemple. C'est tout simplement extraordinaire, quoi. Enfin, je crois que c'est Laurent qui m'en parlait encore il n'y a pas longtemps, mais c'est fabuleux. Et ça, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à se rassembler en fait, pour défendre cette façon de produire. Alors, ceci dit, c'est aussi un combat, et je terminerai là-dessus, c'est que face à nous, il y a des mastodontes, il y a des gens qui ont des capacités de communiquer, qui vont continuer de le faire d'ailleurs. Mais notre travail à nous, je pense, c'est à minima de nous rassembler, d'avoir un projet qui soit lisible collectivement, à l'échelle régionale, sur les différents territoires et avec les différentes filières. Mais ça, il faut qu'on le fasse, parce que sinon, il y a un trou dans la raquette, je pense, dans la construction de cette région, et le goût peut être un beau fédérateur de notre diversité et de ce nouveau territoire. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces lieux d'échange et ces moments de rassemblement pourront peut-être nous permettre à commencer ce travail. Donc maintenant, on va vous proposer donc le petit atelier du goût, qui va durer à peu près 15 minutes. Donc il va consister à faire goûter à 10 volontaires parmi vous, 3 fromages. Et on passera ensuite à un classement selon vos préférences pour ensuite parler un peu de la qualité. Et Monsieur France Génaud, je pense, va pouvoir nous aiguiller là-dessus. Je laisse la parole à mes camarades Delphine et Lucien qui vont vous expliquer comment ça va se dérouler.
Poser après vous avoir écouté avec beaucoup d'attention, en prenant des notes, c'est que vous avez en quelque sorte, pour le cognac, pour vous, là, vous nous avez apporté énormément de choses et vous nous avez montré en quelque sorte tout ce qui pouvait se rapporter en fruits, en fleurs, cet odorat, et pour avoir souvent entendu des œnologues bordelais nous parler de la framboise, de la noisette, etc. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans mon vécu de vieux prof, parce que je me suis rendu compte qu'en fin de carrière, j'avais en face de moi des étudiants qui ne savaient pas faire la différence, qui ne savaient pas où était la pomme de terre cultivée. Il y avait des notions élémentaires de connaissance de la nature qui manquent. Beaucoup de jeunes, très jeunes, les framboises, ça leur parle sur une tarte, ça ne leur parlera pas sur la façon dont c'est planté. Le maïs, s'ils en voient davantage dans notre région qu'ailleurs. Mais ceci dit, il y a cette absence de méconnaissance, je n'ai pas dit ignorance, hein, mais de méconnaissance de la plante porteuse ou de l'arbre porteur qui fait que parler de noisettes, parler de framboises, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, moi, je pense que nous avons un lien pluridisciplinaire avec, les sciences naturelles, l'agronomie, l'agriculture. Autrement, quelque part, il va nous manquer des maillons. Et la chaîne, elle va se casser. Pardon.
Je disais, il y a un énorme enjeu au niveau de la profession, parce que nous, quand on a des jeunes qui arrivent en stage en cuisine, qu'on les envoie au potager chercher de la ciboulette, des choses basiques, quoi. Enfin, je ne parle même pas de la gastache, des choses un peu rares. Ils ne savent pas. Donc, et c'est vrai que nous, on a eu la chance d'accueillir un biérologue, alors je crois qu'on dit un biérologue, un dégustateur de bière, qui nous expliquait qu'en fait, son répertoire gustatif, c'était toute l'enfance qu'il avait passée chez son grand-père. Et si on n'est plus à l'extérieur et qu'on n'a plus capacité à diversifier la dégustation, on a une mémorisation qui n'est pas là. Enfin, un référentiel qui n'est pas du tout aussi riche. Et alors, j'en profite aussi, j'ai découvert alors dans le dernier Oui Demain, qui est une revue un petit peu... justement d'avant-garde, il y a toute une étude extrêmement scientifique sur le fait que les perceptions, et en particulier, alors il parle beaucoup aussi de la myopie qui est en train d'augmenter parce qu'on est moins à l'extérieur, etc. etc. Et il parle du goût en expliquant que la diversité des sensations gustatives est extrêmement importante pour la santé et pour le développement d'anticorps, et en particulier l'amertume. Et l'amertume fait appel à plus de 25 récepteurs. Parce que dans l'histoire des temps, l'amertume était aussi liée au poison. Mais qu'il est extrêmement important de faire appel à tous les sens pour que le corps humain puisse être immunisé et en bonne santé. Donc, une dimension santé.
Voilà, j'aurais voulu faire une petite remarque juste par rapport à ce qui a été dit, parce que je n'ai pas l'impression qu'on en ait parlé. Franz a dit quelque chose de très remarquable. Il a dit qu'il n'y a pas de signe de qualité sur le goût. Alors, si vous prenez comme ça, bout du coffrage, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'en fait... Le problème du goût, c'est d'avoir la capacité à choisir en fonction de ce qu'on aime. En fait, le goût, c'est bien ce qu'on aime. Et en fait, on n'en a pas parlé, parce que vous êtes chacun, effectivement, dans la présentation de ce que vous travaillez, ce que vous vivez. Mais on a un gros problème de déficit de capacité de communication. En fait, on a des poids lourds, on en a parlé, effectivement, dans les différentes filières, qui sont les poids lourds des grandes industries industrielles ou des grands négociants, qui ont des poids de communication qui sont énormes. Et donc, cette communication est imposée via, en plus, des réseaux aujourd'hui, des systèmes pour attirer et aborder à la fois les esprits, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, de manière très puissante. Or, nous, sur des produits que nous défendons, parce qu'on a peur qu'ils disparaissent, en fait, c'est ce problème de manque de capacité de communication pour amener à tester. Quand à un moment donné, on dit on fait des concours quoi, mais avec des gens formés, des gens qui savent ce que c'est qu'une différenciation par le goût. Et c'est pas si évident que ça, que te dire à quelqu'un qui dit, bon, j'aime pas, tu y as goûté? Non, mais comme disait Anne-Marie à l'instant, il ne sait même pas comment sont faits les pommes de terre. Non, je n'ai pas goûté, mais j'aime pas. Déjà, avoir la capacité à leur dire, surtout, goûte, fais-toi un avis et regarde si c'est bon. On en parlait tout à l'heure avec une jeune qui n'aime pas le vin. Ben, un jour, ça viendra, mais il faut au moins faire l'effort de goûter. J'aime pas, j'aime. Mais c'est ce problème d'amener vers la capacité de diversifier sa préhension, sa compréhension de ce qui se passe autour de nous. Et c'est l'enjeu de ce qu'on est en train de mettre en place dans le cadre des Cahiers du Goût et grâce à Mendes France pour notre première édition.
Moi, je voudrais revenir aussi sur quelque chose qui est dans l'air, mais dont on ne parle jamais. C'est, bien sûr, mon goût, il est fait dans mon terroir, il est fait avec ce que j'ai connu enfant, ce que j'essaye de connaître encore et de faire partager mes enfants. Mais il y a une dimension, c'est tous ces goûts qui viennent des gens qui arrivent chez nous, des gens qui amènent de nouvelles façons de cuisiner ou de produire. On a une culture de kiwis. Quand j'étais tout petit, les kiwis, ça me semblait un fruit exotique, si je le connaissais, ce dont je ne suis pas sûr. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une production extrêmement importante pour l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Donc, oui, éduquer au goût. Oui, défendre les producteurs qui font les efforts et on doit les aider d'abord à survivre et puis à vivre de ce travail-là. Mais il ne faut pas se fermer. Fermons pas les portes. Intégrons. Peut-être que ce qui vient d'ailleurs, on le retiendra, on ne le retiendra pas, mais ça permet aussi les échanges et l'accueil de l'autre. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle en Nouvelle-Aquitaine que de ce qui est produit chez nous, qui vient de chez nous depuis des siècles. C'est juste une remarque, je dis, c'est pas une accusation. Mais aujourd'hui, il faut communiquer, il faut qu'on communique sur notre terroir, sur la France, sur l'Europe, mais sur le monde entier. On a des gens en Nouvelle-Aquitaine qui viennent d'autres cultures et qui sont prêts à échanger avec nous. Alors, allons-y.
Je voulais aussi faire une remarque, c'est que quand on commence à perdre la vue, on se met des lunettes. Quand on perd l'ouïe, on se met des appareils. Mais il y a peu de travail qui est fait sur garder du goût. Il y a des médicaments qui vous retirent le goût. Donc je pense que par rapport au vieillissement, il y aurait aussi tout un travail à faire, surtout que ce sont souvent des gens qui ont déjà la mémoire de goût d'avant.
Et j'aurais une petite question. Alors, ça reprend un petit peu ce que vous disiez sur les apports, ce qui arrive aussi sur le territoire. Parce qu'en faisant une plateforme sur goût et territoire, on a un peu la sensation de dépoussiérer quelque chose et de revenir toujours à quelque chose de traditionnel, quelque chose de lointain, etc. etc. Vous le disiez un petit peu avec le cognac. Un des problèmes du cognac, c'est l'image de la bouteille qui est dans le buffet de la grand-mère, etc. Et j'adore trouver des bouteilles dans le buffet de ma grand-mère, donc c'est pas un problème. Mais comment dans goût et territoire, on pourrait poser la question de l'innovation? Comment on innove avec le cognac, par exemple? Comment on innove avec le fromage de chèvre? Comment on innove dans une production quelconque? Voilà, merci.
Alors, moi, je peux parler spécifiquement du cognac, parce que j'y habite, j'y travaille, et je rencontre pas mal de producteurs. Pour répondre peut-être à faire plusieurs réponses les unes après les autres par rapport à ce qui a été dit, on se rend compte, d'une part, que, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple des clients que je promène en tant que guide dans le vignoble. Souvent, je suis contacté par des gens étrangers qui viennent de loin et ils me disent on veut visiter des distilleries. Alors maintenant, je suis un peu précautionneux et je leur dis, je leur donne les quatre noms que je vous ai cités, Annecy, Rémy, Martel, Courvoisier. Ils me disent non, 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 ceux-là, on a fait tout seul, on sait, mais on sait que ce n'est pas des distilleries. Et donc, il y a une évolution moi, que je constate depuis 5-6 ans de gens qui savent qu'il y a autre chose derrière ce qu'on leur vend à l'étranger en particulier et qui veulent aller voir ça. Et donc, ce sont des gens qui se disent, alors c'est un peu concept anglo-saxon de craft beer, donc des bières d'artisans. Ils se disent, il y a sûrement des cognacs d'artisans. Comme il y a des armagnacs d'artisans, c'est encore plus marqué parce qu'il n'y a pas de grande maison dans l'armagnac. Et donc là, il y a une première évolution. Il y a une deuxième évolution qu'on constate par rapport à justement tout ce que vous venez d'indiquer, qui est comment on se différencie. Parce que quand vous avez un viticulteur qui a 15 hectares, qui est totalement indépendant, il a du mal à envoyer un conteneur par semaine aux États-Unis, ce qui a la capacité d'une grande maison. Alors donc, il ne faut pas qu'il fasse le même métier. Mais comment il se différencie? Alors, il y a plusieurs axes de différenciation. Il y a par rapport au type de cognac, des cognacs bruts de fût. Donc, on va prendre des références qui sont un peu semblables à ce qu'on peut trouver dans certains whiskies. Et je vous demanderai juste d'aller voir le linéaire des whiskies dans un supermarché en France et le linéaire si vous trouvez des bouteilles de cognac dans la même allée. Alors que la différence, l'existence est là sur les produits. Et donc, c'est comment un viticulteur qui vend à la bouteille peut se différencier. Et j'en ai pas parlé, mais il y a le bio. Alors, le problème du bio, il y a des producteurs de cognac qui font du bio, par exemple. Ils sont tout contents. Sauf qu'un bon cognac, c'est 20 ans. Alors, il faut déjà avoir commencé le bio il y a 20 ans. Bon, c'était pas encore totalement d'actualité. Il y en a qui ont commencé il y a 30 ans. Et donc, il y en a qui ont une gamme complète de produits bio. Et ça, ça va être une grande différenciation parce que les maisons de négoce ne sont pas en mesure d'y aller sur le bio. Alors, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est parce que les grands cognacs, alors je ne vais pas dire les grands cognacs en termes de qualité et puis de prix, hein, ne l'auront pas quand on peut mettre plusieurs milliers d'euros dans une bouteille. Ça veut dire que dans la bouteille, il y a une provenance d'un millier de producteurs différents par assemblage successif pour vraiment trouver des arômes. Sauf qu'il y a des cognacs, des eaux de vie qui sont stockés depuis 50 ans. Alors celles-là, ils ne sont pas prêts de mettre bio sur la barrique. Hein. Et donc ça veut dire que les gammes des grandes maisons ne pourront devenir bio que dans 50, 60 ans. Le temps que tout leur stock évolue et qu'ils aient eux-mêmes les fournisseurs, qui sont les viticulteurs, en bio, pour avoir une filière complète en bio. Donc là, il y a les viticulteurs qui passent le biais, qui passent le pas. Mais ils sont peu nombreux et ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui dit « je passe en bio » et c'est la génération d'après qui va commercialiser. Mais c'est une vraie différenciation. Alors on en trouve d'autres. On trouve des brutes de fût. Il y a des gens qui travaillent la folle blanche, qui est un cépage ancien, qui est préphylloxérique, pour montrer des qualités différentes. Mais ça reste, je ne veux pas dire des épiphénomènes, parce que ce sont des vrais phénomènes, les gens qui font ça d'avancer, des fortes personnalités avec des cognacs qui valent vraiment la découverte. Mais l'ensemble des viticulteurs, c'est 2% des ventes mondiales. Et dans les 2%, le bio, ça doit être, je sais pas, 5% des 2%. Donc, calculer le nombre de zéros qu'il faut mettre. Donc, c'est une problématique. Mais alors, ils font aussi sur le marketing. Il y en a qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont très présents dans tout ce qui est cocktail. Les cocktails reviennent à la mode. Alors, il y a une bonne raison. Ça permet de dire que le cognac, c'est un produit qui peut se consommer. Il y a une mauvaise raison, c'est qu'on dit on va mettre un truc sucré pour masquer tous les esters qu'on va retrouver dans l'alcool. Ça aussi. Alors moi, je suis en train de faire des tests, par exemple, sur des cocktails à base de légumes, non pas du sucré, mais du salé. Où là, on est plus nature, on peut retrouver des choses plus rigolotes. Donc, on peut se différencier comme ça. Mais l'innovation, ça va rester sur globalement sur l'emballage, sur ces choses-là, quoi. C'est du marketing, on peut le dire aussi.
Oui, bonjour, Jean-Louis Velier, je suis directeur d'un EDG qui s'appelle l'Association de promotion de l'agneau du Poitou-Charentes. Donc un EDG, c'est un organisme de défense et de gestion reconnu par l'Institut de la qualité et de l'origine. Donc mon travail avec mon équipe, c'est de gérer effectivement selon des cahiers des charges reconnus par l'Europe et reconnus par la France. Donc nous avons une indication géographique protégée agneau du Poitou-Charentes et nous avons un label rouge qui est une marque commerciale qui s'appelle l'agneau fermier le diamandin. Et je voulais intervenir par rapport effectivement à cette notion de goût, de signe de qualité du goût. notamment en insistant sur le fait que dans le cadre de nos différentes filières ovines de Nouvelle-Aquitaine, sachant que la Nouvelle-Aquitaine est la première région française en termes d'ovins-viande et la première région française en termes de démarche qualité, depuis l'agneau de lait des Pyrénées, en passant par l'agneau de Pauillac, l'agneau de Périgord, l'agneau du Limousin et l'agneau du Poitou-Charentes. Donc ça fait une belle palette. Toutes ces démarches sont des labels rouges, associés plus ou moins avec des IGP. Et l'obligation de résultat pour maintenir une homologation à label rouge, c'est quand même une analyse sensorielle chaque année qui doit démontrer que le produit label rouge a des descripteurs qui se distinguent du produit standard. Si, à l'occasion de ces analyses sensorielles qui sont faites par des laboratoires accrédités, qui sont dispersés un peu dans toute la France, on n'arrive pas à montrer ce différentiel de qualité supérieure par l'analyse sensorielle, c'est un retrait d'homologation. Donc c'est quand même assez sérieux pour que le label rouge aujourd'hui, notamment sur nos agneaux, nous permette justement de garder des places sur des marchés de niche, notamment parce qu'on se différencie de façon très précise en termes sensoriels par rapport à l'agneau de Nouvelle-Zélande ou l'agneau anglais, hein, puisque nous avons des agneaux beaucoup plus neutres. Après, on aime ou on n'aime pas, puisque les agneaux importés sont des agneaux plus âgés, qui ont plus de goût. Et l'un de nos facteurs de blocage un peu dans la consommation, comme vous le disiez tout à l'heure, on a quand même beaucoup de consommateurs qui disent « j'aime pas l'agneau parce que, sous-entendu, j'ai un goût fort ». Et donc, on démontre, nous, par rapport à toutes ces démarches, qu'il y a des garanties d'origine, des garanties de savoir-faire, en particulier dans nos régions, et puis une garantie de goût, mais sur une palette d'arômes qui sont tout à fait intéressants et qui permettent à un consommateur un peu sensible de pouvoir avoir accès à la viande d'agneau et surtout de la promouvoir et de la déguster.
Alors moi, je voulais simplement citer deux démarches. Bon, il y en a une qui est déjà un petit peu ancienne, mais qui était innovante au départ, c'est la bière Pietra. Donc avant même qu'il y ait ce retour aux bières de pays, la Corse est très fière de ses châtaignes et buvait beaucoup de pastis. Et par contre, il y a eu ce travail sur la bière à la châtaigne. Alors, la personne qui a eu l'idée qui est corse s'est dit, je vais aller chez Gros Tambour, dans leur labo, ils s'ennuient. Donc, il a fait travailler sa bière par des spécialistes de la bière. La bière, c'est un concept que tout le monde connaît. Il n'avait pas besoin d'expliquer comment ça se consomme. Et par contre, maintenant, dans les bars en Corse, vous avez peut-être un peu plus de bière Pietra que vous n'avez de pastis. Donc, il y a eu un changement complet d'identité. On met en valeur un produit local. Puis, il y a une autre stratégie que j'aime beaucoup, c'est la stratégie des parcs naturels régionaux. Ils avaient beaucoup de mal à lutter contre les chambres d'agriculture qui vous disent « votre champ, NPK, allez hop, il faut mettre des engrais ». Donc, eux sont allés trouver des gens du Muséum d'histoire naturelle et ont demandé à des paysans de se porter volontaires pour l'analyse de leur champ ou de leur prairie. Donc, au début, l'opération s'appelait « prairie fleurie ». Et en démontrant que la biodiversité dans les champs était, entre guillemets, scientifiquement prouvée, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de variétés dans le champ, maintenant, ils sont au concours général au salon de l'agriculture et les chambres d'agriculture sont obligées de s'y mettre parce que si on a du bon fromage, c'est parce qu'on a eu du bon lait, parce qu'on a eu une bonne vache, mais parce qu'elle s'est bien nourrie. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient fait une stratégie de contournement fort habile de façon à faire passer le concept de « il faut aussi que les prairies soient bien et qu'elles ne soient pas complètement enchimiquées ».
Merci. Moi, j'avais une autre question concernant l'innovation, parce que je trouvais votre remarque et votre question très intéressante. Et c'est peut-être cette image du goût et terroir qui crée un espèce de fossé avec la jeunesse et qui fait qu'elle se tient un peu à distance. Et je voulais savoir votre avis sur la cuisine moléculaire. Est-ce qu'on pourrait parler de terroir avec la cuisine moléculaire? Est-ce qu'on pourrait garder des goûts avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, j'ai pas juste, mais j'ai juste une petite parenthèse, mais qui est en lien, parce que sur l'innovation, moi justement, moi je trouve, j'ai une fille de 12 ans et elle, son goût, il passe déjà aussi par ce qu'elle a en face d'elle, quoi. Je le vois sur elle, hein, donc et je pense que, et je vois notamment, vu que c'est quand même une des premières qui je fais tester les jeux que j'ai pu tester. Et je lui ai fait boire des choses qu'elle n'aurait jamais mangées si je lui avais montré comme ça. Et c'est vraiment juste la couleur qui a fait que ça attire. Et je trouve que le goût, moi je trouve ça dommage parce que y a, je trouve que l'image est un peu, moi en tant que consommateur, je débarque là-dedans, mais je trouve l'image un peu poussiéreuse. C'est pour ça que je suis assez d'accord sur le packaging et tout ça. Je pense que, par exemple, les Américains, ils ont une longueur d'avance sur nous, sur tout ce qui est bière artisanale, notamment. Moi, j'ai découvert les bières artisanales là-bas et ils sont largement en avance sur sur tout l'aspect communication, même sur des petites brasseries ou des petits producteurs de whisky. Ils ont quand même cette culture-là qu'on, je pense, on n'a pas en France et que je trouve dommage parce que il y a quand même toute une tranche de la jeunesse qui passe par là. Pardon ? Peut-être. Moi, après, je suis pas vraiment d'accord là-dessus parce que je vois, par exemple, dans le département de la Vienne, on a l'entreprise là qui a fait Dédé du Poitou. Je veux dire, ils vendent juste une image avec un baudet, en fait. Et ouais, mais je suis pas sûr qu'à la base, moi, c'est ce que je souhaite mettre en place aussi. C'est certes, ça coûte de l'argent, mais comme tout. Mais je pense que derrière, on le récupère deux fois plus.
Je pense que c'est un très bon point, mais du coup, on revient à ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que quand on est producteur, bah, il faut être bon dans le champ ou sur le site. Il faut savoir s'occuper des animaux. Enfin, ça demande tellement de compétences que s'il y a une vraie volonté qu'on partage, il faut les aider, quoi. Enfin, et je trouve qu'il y a une expérience exemplaire qui a été faite dans le Nord où ils ont mis en place tout un marketing, mais qui s'est déroulé sur tous les acteurs au plus près du terrain, sur des codes couleurs. On leur a distribué des recettes. Enfin, il y a eu tout un accompagnement. Alors après, qui n'était pas imposé, c'était vraiment à redigérer, à utiliser sur le code couleur noir des corons, etc. Ils ont été très 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 loin dans les déclinaisons de gris, d'anthracite, etc. Et le résultat est assez spectaculaire. Donc il y a un moment où il faut aussi peut-être qu'il y ait des designers qui aident les producteurs à faire leur logo. Enfin, il y a toute une démarche. Et je pense que par rapport à l'innovation, moi, ce qui me fera beaucoup dans nos producteurs, c'est qu'il y a aussi, avec tous les enjeux environnementaux, et nous, on est très conscients aussi que dans les assiettes que l'on fait, on donne à manger le paysage, on donne à manger l'économie locale, on donne à manger le patrimoine, la culture, etc. Il y a aussi une très grande technicité. Alors, surtout sur le vin, nous, ça nous frappe, sur les vins naturels ou les vins bio, il faut être très, très fort, quoi. Enfin, c'est compliqué à faire. Donc, ils ont appris, là, nous, on en suit depuis une petite dizaine d'années, donc, et plus ça va, meilleur c'est. Donc, entre eux, il se passe des trucs, mais ça demande un apprentissage, et le bio, on n'y passe pas du jour au lendemain, ça demande aussi pas mal de technicité. Je trouve qu'ils progressent aussi. Alors là, par exemple, il y a des vins, maintenant, qui sont faits totalement sans sulfite, mais parce que c'est sous atmosphère, que jamais la grappe, quand elle rentre dans le pressoir, n'est plus en contact avec l'oxygène. Ça donne des vins incroyablement sur le fruit. Enfin, c'est intéressant. Et y a aussi une clientèle pour ça, parce qu'il y a tous les problèmes des allergies et autres. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que dans les producteurs au niveau des élevages, c'est l'obsession comment on donne de la protéine. Donc, on voit des circuits courts très intéressants entre les brasseurs artisanaux qui apportent les drèches aux éleveurs bovins. Enfin, il y a tout un truc à développer, mais ça demande une mise en réseau. Donc, je sais qu'il y a aussi des associations qui travaillent là-dessus, sur la mise en réseau dans les circuits courts, des besoins des uns. On a présenté aussi à notre producteur de truites locales, notre pisciculteur, quelqu'un qui travaille sur la farine d'insectes localement, à 20 km. Et là aussi, ça peut être des choses vraiment intéressantes pour que les uns donnent les déchets aux autres qui vont leur redonner de la protéine qui est cohérente. Après, je trouve que le point qui est vraiment soulevé, c'est comment on protège les petits producteurs artisanaux avec l'idée de la sentinelle du goût des Italiens. Et je pense qu'il y a la même évolution à accompagner qu'il y a eu dans le patrimoine. Il y a quelques années, on parlait à des musées de clients. Ils disaient non, nous, on est dans l'art et la culture, on n'a pas de clients. Aujourd'hui, il y a eu tout un travail avec les boutiques qui a été fait pour rentabiliser les sites touristiques. Bah, je pense qu'il faut accompagner les agriculteurs pour les aider à se diversifier et à trouver d'autres... Et puis surtout que... Alors ça, c'est une conviction forte que j'ai, mais je suis une ancienne publicitaire et je crois que j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à faire ce que j'ai fait hier. Et je trouve que la publicité a volé l'image de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on devrait interdire de montrer des vaches en pâturage libre à un industriel agroalimentaire où toutes les vaches sont enfermées et nourries avec des tourteaux de soja. Donc, non, mais c'est vrai. Et je pense qu'il faut vraiment faire remonter ça peut-être du terrain aussi. Mais on ne peut plus kidnapper aux agriculteurs l'image de ce qu'ils font au profit d'industriels qui ne font rien de ce qu'ils montrent. Donc,
Juste pour compléter, vous donner deux anecdotes de ce qui est arrivé dans le monde du cognac, dont une, vous avez peut-être entendu parler, et qui ramène à deux éléments qui sont le premier, la cohérence, et le deuxième, l'humilité. Il y a quelques années, enfin, une maison de négoce, que je ne nommerai pas, et vous comprendrez pourquoi, avait mis en place des éductours pour faire venir des barmen étrangers pour leur expliquer pourquoi leur cognac à eux était meilleur que les autres. Et comme ils venaient de très loin, et ceux dont je vais parler venaient du Japon, avaient droit à un tour de France qui passait par la Champagne, qui passait par Paris et qui arrivait à Cognac. Et donc les gens dormaient dans différents hôtels. Et le groupe donc de barmen étrangers, un soir, se sont dit « Tiens, on va les descendre au bar de l'hôtel. » Et puis, comme on va être à Cognac demain, on va demander au barman de nous faire des cocktails ou de nous faire goûter des cognacs. Et donc, ils vont voir le barman qui parlait anglais. Donc, déjà, ça allait pas mal. Et tout le monde commence à dire, ouais, alors cognac. Et le barman leur dit, non, attendez, je vais vous expliquer. Là, j'ai trois cognacs, mais par contre, des whisky, tac. Et comme c'était des Japonais qui connaissaient bien le whisky, puisqu'ils sont producteurs de whisky, ils ont passé la soirée à parler whisky. Bon. Le lendemain, ils arrivent à Cognac. Ils vont dans la maison explique notre histoire... plusieurs centaines d'années, notre savoir-faire, nos distilleries, etc. Tout se passe très bien. Et à la fin, il y a un type asiatique qui s'est levé et qui a dit « Excusez-moi, j'ai juste un petit souci. Les Français, c'est 2% de la consommation. Et à Paris, dans les bars, il n'y a pas de cognac. Alors, ce que vous nous racontez, c'est juste pour la pub ou est-ce qu'il y a un fond d'histoire réel ?» Donc ça, c'était un premier vrai problème. Quand ça a été su dans la profession, ils se sont dit « Tiens, c'est bizarre. Si à l'autre bout du monde, ils commencent à se poser des questions, on n'est peut-être pas très bien. » Puis le deuxième phénomène qui s'est passé, donc moi je l'ai vu de très près, puisque j'avais amené Slow Food à Segonzac, et Segonzac est commune Chitaslo, et j'avais monté le dossier, donc cette première commune, et à l'époque j'avais étudié d'autres labels possibles, c'était dans le cadre de l'Office de tourisme, et j'avais étudié le label de l'UNESCO, et quand j'avais commencé à le lire, plusieurs soirées, j'avais compris que c'était un truc qui était sûrement très bien, mais qui n'était pas pour nous, bon, trop petit, pas assez de moyens. Cette idée a été reprise sur Cognac et les élus en particulier, avec certaines maisons, se sont dit « Ne vous inquiétez pas, nous on va vous expliquer, on va faire ça, on va remplir le dossier, pif, paf, pof, on va être labellisé UNESCO. » Et moi j'étais invité à la première réunion de restitution, où il y a deux types de paris qui sont arrivés d'un cabinet, qui ont expliqué « Vous êtes nuls et vous n'aurez jamais le label. » Bon, après j'ai plus été invité aux réunions, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais enfin bon... Et tout simplement parce qu'il y a un décalage très très grand entre l'image du produit, la réalité du produit et la réalité de l'environnement du produit. Et là, c'est un manque total de cohérence. Il n'y a pas un bâtiment qui est classé au patrimoine au niveau de la production de cognac. Il n'y a pas une distillerie, et pourtant il y en a des très belles, des très vieilles, avec des techniques très particulières, qui soient classées. Il y en a, il se dit, tiens, j'ai besoin de cuivre. Moi, je l'ai connu il y a quelques années. Un type, il a vendu au poids une distillerie qui avait 150 ans hein, pour la partie cuivre. Hein. Donc ça, aujourd'hui, ça ne pardonne plus. Et je reviens à mes touristes, moi, que je promène. Si on n'est pas à la fois cohérent entre le discours, ce qu'on leur présente et ce qu'ils vivent, ça passera une fois parce qu'ils seront venus. Hein, ou ils auront bu, ou ils auront découvert, mais ça ne passera pas deux fois. Et donc, ça nécessite absolument ça. Et si on le fait... Et la deuxième chose, c'est d'être humble, parce qu'on peut se dire, on va leur montrer des photos, on va leur vendre ceci, cela. Ça a été vrai pendant très longtemps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a du fake, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des gens qui sont capables de décrypter. Alors, c'est peut-être plus facile pour Cognac parce que c'est un produit, je veux dire, de niche, un produit haut de gamme qui s'adresse à une clientèle et une population peut-être plus éduquée et donc qui est plus à même de décrypter parce qu'elle voyage. Mais je crois qu'on ne peut plus se dire je vais leur vendre un truc et puis je vais leur faire autre chose. Et d'ailleurs, si les scandales sortent, c'est bien parce que quelque part, il y a de plus en plus de gens et qui ont de moins en moins peur de le dire et de le faire savoir. Donc ça, c'est aussi important. Ça veut dire qu'il faut que nous tous, opérateurs, on l'ait en tête, quoi.
Alors, dernière remarque avant qu'on passe à l'atelier gustatif.
Je voulais revenir sur le côté communication et marketing, puisque moi, c'est mon travail, en fait, depuis 5 ans. J'ai monté une agence de communication et marketing qui s'adresse essentiellement aux producteurs locaux, parce que justement, je connaissais les producteurs locaux et je trouvais ça très intéressant qu'ils avaient des produits... des chouettes produits qu'on connaît bien. Et je trouvais dommage justement qu'ils ne sachent pas les vendre parce que, comme vous disiez, ce n'est pas leur métier non plus. Et c'est, enfin, voilà, chacun son métier. Moi, je ne sais pas produire, je sais communiquer, je sais faire du marketing. Et donc, je travaille avec un certain nombre de producteurs locaux maintenant. Donc, ça passe par des choses très, très simples, hein, comme concevoir des étiquettes sur des pots de rillettes qui donnent envie de manger les rillettes et donne envie de les offrir aussi, puisque de plus en plus, les produits alimentaires sont des produits qu'on offre. Et du coup, j'ai certains clients qui, maintenant, se sentent capables de vendre leurs produits dans des épiceries fines, par exemple, à Bordeaux, à Paris, qui ne se seraient jamais permis avant, alors que le produit reste exactement le même. Donc, effectivement, je pense que c'est quelque chose de très important d'aider les producteurs à avoir les ressources, parce qu'ils n'ont pas les ressources non plus. Et dans des... Alors, tout le temps, je reviens aussi sur Dédé du Poitou, ça me faisait penser à ça, parce que finalement, là, on n'est que dans de la com et du marketing et non pas sur du vrai, sur du vrai produit, sur de la valorisation de produits. Et alors, il y a des choses intéressantes qui sont faites. Hein, on le voit au Salon de l'agriculture cette semaine, où il y a la marque Poitou qui emmène tout plein de monde et puis qui vend plein de choses. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'aider les producteurs à garder leur typicité et leurs produits sans avoir à se fondre dans un label qui est intéressant aussi. Il ne faut pas opposer les choses, mais c'est complémentaire. Et voilà, et donc je voulais vous dire ça. Et en complément de cette activité, je me suis dit que le meilleur moyen de valoriser les produits et de faire goûter ces produits-là, c'était d'organiser des buffets. Donc j'ai lancé une activité de traiteur que à base de produits locaux, donc où moi je transforme rien, je mets juste en lien les consommateurs et les producteurs, et je travaille avec des producteurs donc qui transforment aussi. Et ce qui est très intéressant, je sais plus qui disait ça aussi, c'est que pour le coup je suis la charnière entre les consommateurs, les clients que je vois déguster et à qui je parle directement, et ça fait un retour avec le producteur aussi où je lui dis ça a été apprécié, ça pourrait peut-être être changé un petit peu. Donc il y a vraiment un travail qui est fait. Et puis après aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme je connais plusieurs producteurs, on peut mettre, et c'est ce que vous disiez aussi, on peut mettre en relation les différents producteurs entre eux. Et puis il y a des ponts qui se créent aussi de ce côté-là. Donc, et après, il faudra que je vous parle du compostage, parce qu'il y a des choses intéressantes. L'agence s'appelle Circuit Court Communication, tout simplement. Et le côté traiteur... Ça s'appelle Gustave parce que j'ai compris aussi par la communication et le marketing que et ça marche parce que j'ai une visibilité, parce que j'ai fait un logo attractif, parce que j'ai une communication sur les réseaux sociaux à ma petite échelle, hein, parce que de toute façon c'est quelque chose de petit, donc je peux pas et c'est vrai que on vit dans un monde de communication, donc faut utiliser les codes. Et effectivement, so far so good, je l'ai vu comme ça parce que aussi, vous faites un financement participatif, je crois, sur c'est des choses avec lesquelles il faut penser, avec lesquelles il faut jouer, et il faut offrir cette opportunité-là aussi aux producteurs qui n'ont pas forcément, qui ont envie de, et puis dépoussiérer l'image, quoi, les sortir un petit peu de cette image poussiéreuse que le consommateur peut avoir des produits locaux, quoi. On me trouve là. Je suis dans une coopérative d'activité et d'emploi qui est à Ligugé, qui s'appelle Consortium Coopérative. Donc je suis parfois là-bas et autrement je travaille de chez moi et on me trouve sur les routes souvent.
Eh bien, merci beaucoup. On va laisser la parole à Jackie.
Juste parce qu'elle a posé la question de la cuisine moléculaire. Alors, je vais lui répondre d'une façon un peu humoristique et peut-être un peu provocante. Mais vous savez peut-être que Ferran Adrià, étant le pape de cette démarche du côté de Barcelone, il y avait un hôpital à côté et le deuxième étage de cet hôpital s'appelait les chambres Ferran Adrià parce que quelques clients étaient assez souvent malades à l'issue de la cuisine moléculaire. Je ne veux pas jeter la pierre à la cuisine moléculaire, mais voilà, petite anecdote pour vous dire. Voilà. Après, je pense qu'on peut faire des choses avec la cuisine moléculaire,
ouais,
hein, bien sûr.
Faut pas non plus. Ça fait partie de la. Enfin, je pense que c'est infini. Enfin, la créativité en cuisine est absolument infinie. Et l'hybridation se fait naturellement. Enfin, il y a vraiment toujours depuis la nuit des temps. Enfin, quand on revient aux légumes qui étaient là en France au tout début, aujourd'hui, on a mille et une autres choses qui sont venues d'ailleurs. Donc, et les techniques et Internet est très riche pour ça parce que. Tous les cuisiniers vont voir sur Internet ce qui se fait dans le monde entier. Et moi, je peux vous dire qu'en cuisine, ils bavent devant ce qui se fait au Brésil. En particulier, l'Amérique latine est très, très influente en ce moment. Donc, ça...
Tout à fait, mais tu as bien raison. Et la deuxième chose, je voulais dire par rapport à Slow Food, il faut peut-être le voir aussi comme une sorte de soft power de l'Italie par rapport au monde. Et la même chose, les cuisines sont effectivement, les gastronomies sont un élément du soft power. On voit bien les enjeux que peuvent avoir les pays à se faire labelliser dans le patrimoine pour pouvoir affirmer leur puissance, leur leadership aussi. C'est aussi une des...
Moi, je trouve que la force de l'Italie, c'est d'avoir préservé son artisanat. Ils le valorisent et ils savent le protéger et le développer. Donc...
Eh bien, merci beaucoup. On va revenir sur le goût maintenant, Delphine.
On va passer à l'atelier du goût, qui est donc une dégustation de fromage de chèvre. Alors, il va nous falloir 10 volontaires pour participer à cet atelier.
Donc, 10 volontaires. C'est l'heure du goûter en plus, alors c'est impeccable. 10 volontaires, mais vous restez à votre place.
Vous pouvez rester à vos places, oui.
10 volontaires, vous allez vous servir de votre tablette qui est sur votre chaise. C'est du fromage de chèvre, voilà. Nous remercions Frangeno de nous l'avoir fourni. Donc 10 volontaires, vous levez la main s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a déjà 5, 6, allez. Alors on va vous distribuer 5 fromages différents dans des petites verrines et une bouteille d'eau également, voilà. Et vous mettrez vos sens en éveil et on va vous expliquer le but de cette dégustation.
Alors, vous allez goûter ces 5 fromages de chèvre et à l'issue de la dégustation, vous allez en choisir un que vous avez préféré. On va noter tout ça sur un tableau parce qu'ils sont identifiés par des petites pastilles de couleur. Et donc, on verra quel fromage a été votre préféré et on pourra en discuter, notamment avec Monsieur Franz Génaud.
Il me reste... Il me reste une part. Oui.
finalement, c'est pas très compliqué. Nous, on est en train de jouer là. Ça donne des saveurs super intéressantes. La longueur en bouche, et c'est ce qu'on disait, en fait, la palette aromatique, comme c'est naturel, c'est infini. En fait, c'est ça qu'on découvre dès qu'on est sur de l'artisanat par rapport.
Vous avez tous vos 5 fromages différents ? Non ? Là ? Il n'y en a que 4, mais le 5e est là. C'est que du fromage de chèvre. Franz viendra après apporter ses connaissances. Alors vous prenez le temps de goûter et ensuite vous nous direz selon lequel vous préférez. On va voir suivant le nombre de points que chaque couleur aura, voir comment vos goûts sont orientés. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est vous avez une bouteille d'eau, voilà pour pouvoir rincer la bouche. Pouvez-vous prendre des notes ? Il n'y a pas de souci. Tout le monde a une bouteille d'eau ? Oui ? On va aller la chercher si vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui, le fromage de chèvre, oui. Eh bien, on pourra en parler tout à l'heure. Ça sera une bonne remarque après.
s'arrête. Ah oui, mais on va repasser vendredi. Est-ce que vous serez là? Parce que on refait le plan. Ils refont le plan en partant dans l'autre. Elle a fait les paniers à la main.
Oui, j'ai vu sur Facebook, c'est sponsorisé du coup. Non mais si, il y aura.
Oui, j'ai vu quand même, parce que du coup.
Oui, ça a été sponsorisé.
Il va falloir faire un croix. Parce que je voulais relancer et j'ai vu. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, messieurs, dames, est-ce que vous avez terminé votre dégustation ?
On y va ?
Tout le monde a terminé ?
Ouais. Oui, mais elle a goûté quand même, je crois. J'avais terminé, madame, vous n'avez pas tout goûté encore ? Vous n'avez pas tout goûté pour l'instant ? D'accord.
Bien, je pense que tout le monde a terminé. Donc maintenant, on va voir lequel a eu le plus de succès. Alors on va faire un vote à main levée, suivant le code couleur, d'accord ? Et après, on va analyser celui qui a gagné. Et on va voir d'où il vient. Alors le rouge, qui a préféré le rouge ? 4 points. Non. Le vert. Qui a apprécié le vert ? Bon, il n'a pas eu succès, celui-là. Non. Le jaune. Personne non plus. Aïe, aïe, aïe. Le noir. Vous avez droit à un point, normalement. Vous avez déjà le... Il y a combien de points, là, pour le noir ? 4. 4 points. Normalement, le bleu devrait recevoir 2 points. On est d'accord ? Non ? Il y en a un, normalement. C'est...
Qui n'a pas voté ?
Qui n'a pas voté ? Ou qui a voté 2 fois ? Non, même pas. On est bien d'accord qu'on a donné à 10 personnes du fromage. Le bleu. Normalement, il reste un vote, hein. Eh bien, on met un point. Bon, d'accord. Mais oui.
Il y a bien eu 10 dégustations.
Il y a eu 10 dégustations.
Ouais, que toutes les dégustations de la bleue.
Normalement, il y en a.
Alors, le rouge.
On recompte, mais non.
Il n'a pas voté le monsieur là qui arrive.
Ah, voilà.
Vous n'avez pas voté ? Et si, il a voté. Ah, oui. Il n'a pas voté. Lequel était votre préféré ? Le noir, ah ben, 5 points pour le noir, 1 point pour le bleu. Alors maintenant, Delphine va vous révéler l'identité de chacun de ces fromages.
On ne peut pas savoir le deuxième préféré.
Ouais, allez, le deuxième préféré, on va le faire. Le rouge, allez. Qui pour en deuxième position? En deuxième position, il a 3 points. Le vert, 1 point. Le jaune, avec des glaces. Ouais, 2. Le noir, en deuxième position. Bon, et bien alors le noir, 1 point. Et le bleu, 1 point. Il a la 7, mais bon. Voilà, on la seconde place, voilà. On va se concentrer sur la première colonne. Alors Delphine va donner les identités, on va dire, des personnages.
Alors.
Et après, Franz viendra apporter ses connaissances.
À savoir que ce sont tous des bûches, sauf le noir. Ce sont des bûches de chèvre. Alors, le rouge est une bûche laprifeuille au lait cru sans OGM. Le vert, qui a obtenu 0 vote au premier tour et 1 vote au second, est une bûche pâturage. Voilà. Le jaune, qui a également obtenu 0 au premier tour et 2 au second tour, est une bûche soignon. S-O-I-G-N-O-N. G-N-O-N, oui, voilà. Le noir est donc un chèvre artisanal, mais qui n'est pas une bûche. Et enfin, le bleu est une bûche artisanale. Voilà.
C'est un losange. Ah non, la productrice l'appelle un losange.
Et le bleu, c'est une bûche artisanale. Est-ce que vous souhaitez apporter des précisions, monsieur Génaud ?
Alors, du coup, je ne les ai pas goûtées, mais je les connais un peu. Les étudiants m'ont demandé hier, effectivement, de vous fournir 3 fromages de 3 origines distinctes, industrielles, artisanales et fermiers. Du coup, j'ai trouvé de l'industriel, vous l'avez vu, c'est le vert et le jaune, dont un est une marque distributeur. Bon, il n'a pas eu trop de succès, quoique, en deuxième position, finalement, il s'en est bien sorti. Le noir et le bleu, c'est le même producteur. La différence, c'est un producteur artisanal. La différence que vous avez, c'était notamment l'affinage, parce que je suis sûr qu'elle était très jeune, en fait, la bûche. Et du coup, je pense que ça a influencé votre dégustation. Ça avait moins de saveur que d'autres, mais ça aurait eu une semaine ou 15 jours de plus. Je pense que ça aurait remonté et ça aurait pu être assez proche du rouge, qui pour le coup est la laiterie Sèvres et Belle, celle sur Belle qui est une industrie mais qui fait du fromage plutôt artisanal pour moi, qui est dans la catégorie des fromages artisanaux, en tous les cas en qualité, et qui fait des très bons produits en général, mais c'est quand même du coup dans la catégorie des industriels. Donc il y a plusieurs choses, hein. Il y a le stade d'affinage, le fait d'être très industriel, donc le vert et le jaune, pour le coup c'est une méthode, ce qu'on appelle de boudinage, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous rentrez dans une usine comme celle-là, il n'y a pas de salariés dedans, voilà. Et puis le rouge c'est de l'industriel aussi, mais c'est moulé à la main, il y a vraiment du travail des fromagers sur ce fromage-là. Et les deux derniers, donc vous êtes quand même des amateurs je pense, parce que pour apprécier le noir qui était de couleur bleue, c'est que vous aimez quand même le goût sur le fromage de chèvre et sur la roue des arômes. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y regarder, mais pour information, pour le coup, sur notamment le noir, pour prendre de plus typé, on sera plutôt sur des arômes de sous-bois, des arômes de cave, des arômes de champignons, animal aussi, c'est plutôt sur ces choses-là qu'on est. Oui, alors beaucoup d'odeur, on va dire. Plus d'odeur en tous les cas. Alors par contre, je ne sais pas oui, s'il était salé, mais... Et ce qui est important, ce qui me semble important de dire, mais qui est au-delà de ce qui est présenté là, c'est la question de la texture. Pour nous, en fait, on dit que la texture compte pour 50% en fait, de l'appréciation des fromages. Il faut l'avoir en tête parce que ça ne se voit pas du tout sur la roue des arômes, parce que là, on ne parle que d'arômes, mais ce que vous ressentez en bouche de façon physique, c'est très, très important. Que ce soit d'ailleurs pour... pour les fromages, mais aussi pour la gastronomie en général, la texture est très importante. Et je pense que ça a joué sur le goût, mais aussi sur la texture entre le rouge et le bleu. Parce qu'en texture, du coup, le bleu était très jeune, très friable. On avait sans doute une attaque en bouche qui était beaucoup plus courte, alors que le rouge, on avait une texture qui devait être fondante, j'imagine, pour le connaître, qui restait plus longtemps en bouche, et qui, du coup, avait à la fois une attaque et une longueur en bouche, et qui devait être beaucoup plus agréable dans le fondant et donc dans cette texture-là. Alors qu'on a une texture peu fondante sur le jaune du bleu qu'il aurait d'ici 15 jours. Hein. Voilà. Si jamais certains... ça les intéresse, je te laisse juste la parole après. On fait un concours de fromage de chef tous les ans. Si jamais il y en a qui s'intéressent, vous nous donnez votre nom et on vous fera participer à un concours en tant qu'amateur. Sur les tables, il y a des professionnels, des techniciens et des amateurs. Et si ça vous intéresse, ça peut être l'occasion de...
Oui.
On fait aussi des formations, oui.
Ils ont l'air bon jurés, oui. Il y avait plusieurs remarques que j'ai entendues durant la dégustation, là et après ici. Je vais vous donner la parole.
Oui, une remarque là, concernant la texture. Il y a un point qui est important, c'est... la façon d'échantillonner le fromage pour qu'en bouche, on ait une proportion comparable de croûte et de la partie pâte du fromage. Et pour deux d'entre eux, moi, ça m'a gêné dans l'échantillon que j'ai dégusté. Et parce que, alors, le rapport justement entre la croûte et le reste, c'est le jaune et le vert. Dans l'échantillon que j'avais dans mon petit verre, hein, ouais. La partie texture de la peau était de la croûte était gênante. Voilà, pour avoir une bonne dégustation en bouche. Oui, mais je me pose la question quand même de la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon qui est dans le verre. Nous avions 5 ou 6 petits morceaux. Et peut-être que si on avait une coupe, simplement une coupe transversale, ça aurait été différent. Voilà. Parce que c'est quand même une difficulté pour déguster, c'est la matière qu'on a en bouche. Voilà. Ah non, mais... Oui, mais quand la texture de la croûte est très différente du reste, ça altère quand même le jugement qu'on peut porter sur le goût.
Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les fromages, on les a coupés de la même façon, en fait, tous. Donc justement, ça montre que dans les fromages industriels, il y a quand même cette croûte qui est dérangeante, parce que la coupe a été la même, si vous voulez, sur tous les fromages, l'épaisseur, etc. Parce qu'il y en a qui sont très friables, surtout justement ces deux-là. Donc il reste que la croûte parce que c'est la partie solide.
Alors le vert et le jaune, oui, ce que j'ai pas dit c'est que les deux qui sont pasteurisés c'est le vert et le jaune pour le coup parce que les autres sont tous les trois au lait cru, ce qui joue sur le goût. Une autre chose qui joue sur le goût c'est le temps de ramassage du lait en fait aussi. C'est-à-dire que probablement, enfin, le jaune c'est sans doute du lait français. Le soignon, alors que le vert, à mon avis, il n'y a pas que du lait français dedans, parce qu'on a une part d'importation, je vous l'ai dit, qui est assez importante, et du coup, on a des laits qui sont collectés soit aux Pays-Bas, soit en Espagne. Un peu quoi, vous dites ? Oui, peut-être, alors je ne sais pas lequel c'était, mais du coup, ça joue, pasteurisé, pas pasteurisé, le temps de collecte, moulé à la main ou moulé à la machine, enfin ça, c'est des éléments qui jouent beaucoup. Et sur votre question, vous me disiez, Madame Cocula, ah oui, le coût. Alors, je vais vous le dire au kilo, en gros, le jaune, c'est aux alentours de le soignon, la bûche soignon, elle est aux alentours de 12 euros le kilo. Enfin, entre 10 et 12 selon les moments. Le vert, il va être entre 9 et 10 le kilo. Et ensuite, le rouge, il va être aux alentours de, on va dire, 13-15 euros le kilo. Et l'artisan fromager fermier, il va être entre. Alors, ça dépend à qui vous l'achetez, si c'est en direct, si c'est dans le magasin, si c'est à Paris chez un crémier. Il va valoir entre 15 et 30 euros le kilo. À Paris, ce sera ça, ouais. Oui, tout à fait. Entre la bûchette et la, la... Oui, c'est ça. En gros, vous êtes entre 10 euros d'un kilo et 10 euros d'un côté du kilo et 15-20 de l'autre, oui. Oui, c'est très différent. Ouais.
Alors, une dernière remarque avant de clôturer cette rencontre, monsieur.
Oui, bonjour. Oui, je trouvais le verre, justement, que ça faisait beaucoup plus industriel, quoi. Mmh. On retrouvait la peau. Bon, c'est pas l'industriel comme on retrouve avec du cahier congelé, que quand même, c'est, là, c'est quand même nettement supérieur, quand même. Mais après, c'est pour ça qu'on retrouve le bleu, qui est beaucoup plus artisanal, et puis le noir, quoi. Et ça fait que, bon, surtout le noir, on retrouve qu'il y a du moisissure, il y a du pénicillium, quoi. Ce qui fait que ça fait, on retrouve le plus le goût fermier. Voilà.
Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est au-dessus ou en dessous. Si, c'est ça. En fait, voilà, la bûchette que vous avez goûtée, là, donc, soit la verte, soit la jaune, c'est 60% de la fabrication française. Ce qui n'est pas un atout pour la filière caprine, parce que du coup, c'est un fromage pas cher qui valorise plutôt peu, qui se vend en quantité. Le marché continue de se développer, mais plutôt peu.
Jordan va prendre la parole pour, le tout dernier, pour les tout derniers instants de cette rencontre. Vas-y, Jordan.
Donc maintenant, on va voir une vidéo. Donc il était pour nous essentiel, avant de vous rencontrer, d'aller faire un tour sur le terrain pour voir un petit peu l'appréciation de chaque personne sur qu'est-ce que le goût pour eux, à quel terroir ils appartiennent et qu'est-ce que le terroir signifie pour eux. Et voilà, donc et je vous laisse avec cette vidéo.
Ça vous servira d'ouverture pour votre réflexion personnelle. Voilà.
Le goût, c'est le plaisir des papilles. Oui, chaque personne a un goût différent. On peut aimer un aliment et puis une autre personne n'est pas obligée de l'aimer.
Le goût, c'est assez subjectif. Chacun a une définition propre du goût. Il y en a qui vont de suite penser à des dominantes du goût, du salé, du sucré. C'est en rapport avec les souvenirs qu'on a dans l'enfance, les plats que nous faisaient nos parents. Pour moi, le goût, ça détermine effectivement un ancrage affectif.
Pour moi, le goût, c'est une saveur qu'on ressent par rapport au palais. Et c'est selon si on aime ou si on n'aime pas.
Ça rapporte à une saveur, à quelque chose qui nous fait du bien, qu'on s'approprie,
ouais.
À un bon moment et à un art aussi.
Ouais.
Le terroir, c'est un produit logiquement, enfin, pour moi, c'est un produit qui est fait dans une région. Chaque région a son produit spécifique, mm-hmm. Et c'est un produit qui est logiquement fabriqué dans cette région et qui est logiquement naturel.
Alors les différents terroirs sont liés aux régions et à leurs spécificités culinaires. Mmh. À savoir que le Pays Basque ou la Dordogne ou la Gironde, la Charente-Maritime, effectivement, ont des spécificités déjà au niveau des produits, au niveau du goût, bien sûr, au niveau des vins, des mets, la façon de cuisiner aussi, qui est totalement différente, et puis de leur production sur chaque région. Voilà.
Le terroir, c'est l'identité de chacun, où est-ce que tu viens et comment tu le représentes, donc au niveau architectural, au niveau des habitudes, de la culture, et qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans un endroit et que tu te sens telle personne de tel endroit.
On change de région,
oui.
On ne mange pas du tout la même chose.
Par exemple ?
Eh ben, en Normandie, on mange beaucoup de crème, de beurre, des ragoûts, des pot-au-feu, des blanquettes. Et ici, on mange beaucoup, beaucoup plus léger. On est quand même resté dans nos traditions où on a été élevé, quoi. C'est ça, en fin de compte. Oui.
J'achète ce que j'ai envie d'acheter, oui. Ce qui me fait plaisir.
D'accord.
Après, effectivement, je regarde le prix, si c'est trop cher ou je prends le produit le moins cher. Mais sinon, ouais, c'est me faire plaisir avant tout. Essayer des nouvelles saveurs.
D'accord.
Ouais. J'adore essayer des nouvelles saveurs.
Donc, voilà. Il était important pour nous de vous montrer au travers de cette vidéo que selon la génération aussi, parce qu'on a un enfant, on a un étudiant, on a de jeunes adultes, des personnes un peu plus âgées, et que ben, les représentations ne ben, sont pas du tout les mêmes, que ben, parfois les avis divergent et convergent vers ben, des propos. Certains vont avoir les mêmes notions du goût, d'autres les mêmes notions du terroir. Et donc ben, maintenant, avant de laisser le mot de la fin à Lucien, je vais juste vous énoncer un peu tous les thèmes qu'on a évoqués cet après-midi pour voir un petit peu ben, tous les horizons, parce que nous avons été quand même loin dans nos conversations, dans les débats, dans nos discussions. Donc nous avons parlé beaucoup de tout ce qui est sentiment d'appartenance, de l'éducation, de la santé, de tout ce qui se ramène aux souvenirs. On a parlé notamment des recettes des grands-mères, des produits qui sont transmis de génération en génération. On a parlé de la mode, on a parlé de tout ce qui est qualité, de la pub, on a parlé des prix, on a parlé des réseaux sociaux avec madame dans le public, avec tout ce qui est les influences de la communication. On a parlé des stratégies de vente, justement, avec monsieur Jean-Claude. Et notamment aussi avec vous, avec comment bien disposer les éléments pour que ce soit plus attractif et plus beau et que qu'on ait plus envie d'aller faire vers ces choses-là. On a également parlé de tout ce qui est l'économie locale et des circuits courts notamment. Voilà. Donc Lucien, si tu veux conclure.
Donc avant de conclure, je vous rappelle que nous avons distribué des fiches questionnaires de satisfaction et nous aimerions les récupérer complétées. Donc pour conclure, je voulais vous dire, vous remercier encore une fois d'avoir été très, très réactif au débat. Je voudrais vous dire de rester bon vivant et épicurien pour conserver cet amour du produit de qualité et le transmettre surtout, car je crois qu'il y a de belles choses à faire. Je remercie nos intervenants pour leur superbe présentation et participation. Et merci également à vous. Et merci à l'Espace Mendès France. Et à bientôt peut-être.